Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente Au bout du foot, Malik Eudy.
Au sommaire d'Au bout du foot, Manchester City de Guardiola. Deux défaites en une semaine. Que se passe-t-il chez les Citizens? On en parle dans Au bout du foot. La crise à Lyon. Les supporters sont furieux. Les joueurs désespérés. Les dirigeants absents. Qui faut-il blâmer chez les Gaunes? Au bout du foot, donne les réponses. Les droits télé de la Ligue 1. Canal Plus se retire de l'appel d'offres. Est-ce l'échec de Vincent Labrune? Le dossier est sur la table. Ligue des champions, une journée à couper le souffle avec Lens, Arsenal, Naples, le Real Madrid et Newcastle. Le PSG et bien plus encore. Laquelle des affiches vous fait le plus rêver? Et dans la chronique, quel choix pour quel résultat? Nos chroniqueurs partagent leurs prédictions concernant les clubs français engagés dans la compétition. Vous êtes bien sur Mon Paris FM, Au bout du foot, troisième numéro. Bienvenue. Et pour entrer dans le sommaire d'Au bout du foot aujourd'hui, je vais appeler mes amis de tous les lundis soirs désormais Au bout du foot. C'est tous les lundis soirs après Mon Paris Sport dès 20h30. Stéphane Desenclos, rédacteur en chef du quotidien du sport.fr. Salut Stéphane.
Salut Malik.
Comment bon ça va? Bien.
Ça va, très bien.
Et également Eladj, chroniqueur foot sur Mon Paris FM. Salut Eladj.
Salut Malik, ça va?
Ça va très très bien. Et puis notre rédacteur en chef Mon Paris FM, Aboubakar. Salut Aboubakar.
Salut Malik.
À nos deux étudiants, Cheikh Enza, Ibrahima. Salut les amis, comment ça va?
Salut, ça va.
À noter également que Jason Lindor réalise Mon Paris. J'ai failli dire Weekend Africain, hein, c'est fou. Hein.
on le rappelle, t'es aussi l'animateur de Weekend Africain.
Ouais, c'est fou. Donc Jason Lindor réalise Au bout du foot de ce soir. Et puis les amis, on va commencer. Hein. Il y a Philippe Carnu qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais on va commencer tout de suite avec le premier sujet, Manchester City de Guardiola. Déjà deux défaites dans la besace, ça fait beaucoup. Ah, on me fait signe que j'ai oublié justement le 30 secondes chrono. C'est bon, Dieu? Si on est parti, c'est bon,
c'est
bon, on va commencer par le 30 secondes chrono.
C'est un lundi compliqué. Hein.
Ah, c'est un lundi compliqué aujourd'hui. Un 30 secondes chrono justement, histoire de nous dire qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce week-end de football. On commence par qui? Qui c'est qui est prêt là déjà? Stéphane, 30 secondes chrono.
Honneur à
l'ancien.
Non, moi, c'est parti. Je reste sur mon impression déjà de la semaine dernière. C'est Gattuso à l'OM, une défaite 3-2. Et j'arrive toujours pas à m'en remettre de prendre un coach, faire un effectif avec ce coach. Un effectif, je pense, plus faible en plus que celui de la saison dernière. Et puis de balancer un nouveau coach au bout de 6 journées. Donc je pense que ça va être très, très, très compliqué avec toute sa bonne volonté. Gattuso, je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de mal, même si on a vu des choses intéressantes.
Cela dit, c'est Marcelino qui est parti. Hein.
Ouais.
Donc.
Si on veut.
30 secondes chrono avec Eladj. C'est parti.
Bah moi, franchement, Lyon encore, bah Grosso, hein, parce que j'en parlais encore la semaine dernière, je disais que Grosso ne va pas s'en sortir. J'ai vu le match de l'OL encore, c'était encore une purge, franchement, c'était pas bon du tout, même dans l'état d'esprit. Normalement, quand il y a un nouveau coach qui arrive, même quand il est mauvais, hein, dès le début, au début, ça se passe bien, mais avec Grosso, ça se passe mal dès le début, ça t'annonce la couleur, ça va être que noir et très très sombre. Et j'ai vraiment, voilà, je pense qu'ils vont quand même se maintenir, hein. Je garde la même, voilà, ce que j'avais dit la semaine dernière, mais du moins, ça va être très très difficile en tout cas.
30 secondes chrono, Ibrahima.
Alors, cette semaine, je voulais parler de l'Olympique... non, pas l'Olympique Lyonnais. Plutôt du Paris Saint-Germain que j'ai vu ce week-end contre Châteauroux. Avec une attaque qui a malheureusement... contre Clermont, plutôt. Avec une attaque qui a été très, très peu décisive. Beaucoup de ratés en attaque, malgré les recrues de Colomouani, Dembélé, qui sont arrivés. Barcola aussi. C'est assez décevant et j'attends de voir ce qui va se passer contre Newcastle, mais pour l'instant on a pu constater un grand manque d'efficacité au niveau de l'attaque parisienne.
Merci. Cheikh Enza, 30 secondes chrono pour toi.
Mais pour moi vraiment c'est le Real de Madrid, vraiment je m'attendais pas à ce qu'il fasse un bon résultat face à Riron. parce que là, ils sortaient vraiment d'une défaite face à l'Atlético, un match dans lequel ils n'ont pas été... Ils n'ont pas été bien durant les 90 minutes. Je pense que la cohésion défensive n'y était pas. Au milieu, les joueurs étaient moyens par moment. Donc vraiment, j'ai vu qu'il y avait du répondant. C'est... En tout cas, c'est bon pour la suite. J'espère que vraiment que Ancelotti il nous sortira une saison, une bonne saison cette année, parce que le Real vise déjà le titre, la Ligue des Champions et pourquoi pas
c'est
la
bon,
Coupe.
C'est bon, c'est fini. C'est fini. Aboubakar, 30 secondes chrono pour toi.
30 secondes chrono pour revenir sur mon coup de cœur du week-end. Moi, c'est Romelu Lukaku, auteur de son 6e but sur ses 6 derniers matchs avec l'AS Roma. 3 buts déjà en championnat. Lui qui a été conspué, hué par les supporters de la Juve qui n'en voulaient pas. Lui qui devait signer à la Juve en début de saison, mais qui a fini à l'AS Roma parce que les supporters de la Juve n'en voulaient pas. Lui qui a quitté l'Inter Milan. Lui qui a vécu une saison dernière difficile, une saison difficile également à l'Inter. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et on espère qu'il fera une grande saison.
Merci les amis. Comme je le disais, on enchaîne tout de suite avec l'équipe de Guardiola, Manchester City. C'est 2 défaites en très très peu de jours, 2 défaites rapprochées dont une élimination en coupe déjà. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'équipe de Guardiola, cher Eladji?
Franchement Malik, moi je sais pas trop ce qui se passe avec l'équipe de Guardiola. Moi je disais qu'ils arrivent à bout de souffle, hein. Voilà, ils perdent Kevin De Bruyne sur blessure.
Tu crois vraiment?
Oui, ils arrivent à bout de souffle.
On est en début de saison.
Non, mais ils arrivent. Vous voyez, en fait, il y a des fois où il y a une équipe, elle performe pendant 2-3 années. Comme Liverpool, ils ont eu un trou noir la saison dernière, un peu. Ils ont régressé.
Mais City a renouvelé
parce qu'ils avaient
quand
plus
même
de souffle.
En partie.
Ils ont renouvelé, mais avec qui? Doku. Doku qui joue de temps en temps.
Doku joue quand même à la place de
Grealish.
De Grealish
à par moment, sinon il est à droite. Il le met à droite, hein. D'habitude il met Grealish à gauche. Grealish en ce moment c'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'il fait, s'il fait pas ses soirées ou quoi, mais honnêtement, je regarde les matchs de Manchester City, je te le dis, les 2 derniers j'ai regardé.
T'as commencé avec Doku, ça me fait rien.
Non mais c'est ça, ils ont mis. Non mais attends, avec Doku, non mais parce que c'est la vérité, c'est les recrutements qu'ils ont fait. Et tu vois, Doku, moi franchement, j'ai vu en coupe, il a voulu faire tourner. D'habitude, quand il fait tourner, bah il y a des Riyad Mahrez, il fait jouer des Alvarez, etc. Il fait jouer ça maintenant. Quand il fait tourner en temps normal, maintenant, il y avait des joueurs inconnus au bataillon. Ils ont mis des jeunes. Franchement, ils n'avaient pas la mentalité, ils n'avaient pas la grinta, rien du tout. Ils ont joué le match, mais on dirait même pas Manchester City, c'était pas un rouleau compresseur. Ensuite, tu vois contre Wolverhampton, ils se font manger. Franchement, ils se font manger et Alvarez, il nous sort un coup franc entre guillemets miraculeux parce que
le futur ballon d'or de Stéphane Desenclos.
Oui, le futur ballon d'or dans ses rêves, dans ses rêves ou même peut-être même ailleurs, mais en tout cas peut-être pas dans la réalité, en tout cas pas dans notre réalité.
Dans la tienne, ouais.
Non, pas dans la nôtre.
Celle où Mbappé part depuis 3 ans.
Oui, pas dans la nôtre, mais pas dans la nôtre.
Celle où Mbappé ne porte déjà plus le maillot du Paris Saint-Germain.
Non, mais là on parle de City là. Ça fait 2 défaites d'affilée là.
Voilà, 2 défaites d'affilée du coup Manchester City. Alvarez qui met un sublime coup franc, mais à part ça. Le match inexistant. Moi je disais bien Haaland aussi, parce qu'il faut pointer un peu du doigt Haaland sans Kevin De Bruyne. Je le disais, Haaland sans Kevin De Bruyne, ça ne vaut pas grand chose. Honnêtement, s'il n'y a pas quelqu'un pour le servir des galettes, ça ne vaut pas grand chose. On voit ses buts. Honnêtement,
comme
on voit ses buts.
Comme tous les attaquants, hein, quelque part.
Oui, non, pas comme tous les attaquants. Comme les attaquants purs, comme Erling Haaland. Là, tu vois, un joueur comme, je sais pas, même Julian Alvarez, par exemple, il joue un peu dans le jeu et il essaie de finir. Là, franchement, Haaland...
En fait, tu veux dire qu'Haaland, c'est pas un joueur de ballon, quoi.
C'est pas un joueur de ballon. Oui, on voit bien, hein, il touche peut-être 5 ballons, le mec, il va te mettre un triplé.
Mais je pense que
Haaland, c'est plutôt un 9 à l'ancienne.
C'est pas comme De Bruyne, c'est pas forcément juste comme De Bruyne, mais c'est effectivement quand il a pas des bons ballons. Et encore, même quand il a des bons ballons, la saison dernière, par exemple, où il a marqué un nombre record de buts. Il faut voir aussi quand même dans certains matchs tout ce qu'il a raté, quoi, tout ce qu'il a raté. Et c'est vrai que c'est ce qu'il en ratait déjà beaucoup. Mais c'est vrai que là, tu as tout à fait raison. C'est pas forcément que De Bruyne. Je sais pas si dans ses 50 buts, ou je sais pas combien il a mis la saison dernière, il y a 56 passes ou 55 passes de De Bruyne, certainement pas. Mais effectivement, quand il n'y a plus une équipe super solide. Moi, je serais un peu moins.
Mais à Dortmund, il avait de jolies stats aussi. Hein,
à Dortmund, il avait de jolies stats. Il avait Bellingham aussi. Hein. Il en avait d'autres qui participaient. En tout cas, je dis qu'il faut qu'il y ait vraiment un collectif assez bon autour de lui. Et enfin, je pense qu'à City aussi, il y a un bon collectif, mais qu'il ne le serve pas dans des bonnes positions.
C'est bizarre.
Vous
êtes tous les deux, Stéphane et Eladj, vous êtes en train de casser City, mais tous les deux, vous avez les couleurs de City ce soir,
non,
quand même. Hein.
Mais moi, je.
Justement,
j'ai pas terminé. Moi, je serais beaucoup moins critique que Eladj sur City.
Ouais.
Parce que je dirais juste que effectivement,
c'est un accident.
Oui, non, pas forcément. Où je pense qu'il a tout à fait raison, effectivement, c'est qu'il y a peut-être un effectif qui est beaucoup moins riche que ces dernières années, où effectivement, quand tu mettais les remplaçants, tu avais Mahrez, tu avais Foden, par exemple, la saison dernière qui n'a pas été tout le temps.
Mais est-ce que de très grands joueurs aussi n'ont pas marre d'être sur le banc à City?
Bah non, je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, regardes, il y a aussi là, je termine juste avec ça, il y a aussi là, sur ces deux matchs-là, il y a aussi pour l'instant deux joueurs très très importants qui n'ont pas participé à ces matchs. C'est Bernardo Silva et puis Rodrigue, le numéro 6 qui est suspendu. Ouais. Donc, mais qui sera là par exemple. De toute façon, on va le savoir mercredi en Ligue des Champions parce qu'ils ont un rendez-vous à Leipzig qui est très chaud. Quoi. Leipzig, c'est une très bonne équipe qui marche très bien.
Même là avec le Bayern, ils ont. Voilà. Mais je pense que. Non, honnêtement, je pense que Manchester City vont gagner contre Leipzig. Mais par exemple, j'ai aussi entendu dire que Manchester City vont faire le doublé en Champions League ou quoi. Jamais de la vie. Ils vont jamais faire le doublé et même la première ligue, ils vont pas la gagner. J'en suis sûr, moi.
Et c'est dur que.
Pour la première ligue, c'est ça.
Comment tu expliques justement les deux défaites successives de City?
Moi, me concernant, je pense que vraiment cette équipe de Guardiola, elle est en fin de cycle.
Ah, toi aussi, tu penses la même chose qu'elle a dit?
Ouais, mais moi, j'aimerais sincèrement argumenter un peu plus. Parce que l'équipe, elle est en fin de cycle, c'est-à-dire quoi. Et le cadre de l'équipe de la saison dernière, par moment, De Bruyne, c'était un cadre. Mais si c'est De Bruyne, je pense que c'est lui vraiment qui sortait un peu de l'eau, du lot de cette équipe. Vraiment, quand l'équipe était en difficulté, c'est lui qui arrivait vraiment à la propulser. Par moment, il y a eu des matchs où ils ont été réellement en difficulté. Le match contre Madrid, le match aller, ça a été vraiment compliqué.
On t'écoute. Vas-y.
Le match aller, ça a été vraiment compliqué. Et ne serait-ce un espoir de De Bruyne vraiment qui arrive vraiment à rétablir l'ordre et tout ça parce que c'était la panique du côté des City. En plus, je pense que là, il y a un joueur important comme Gundogan qui part. Et là, vraiment, le recrutement n'est pas aussi à la taille de City. Cette Kovacic, c'est un très bon joueur. Mais comparé à Doku, c'est un peu en dessous de Riyad Mahrez. Quand tu payes un joueur comme Riyad Mahrez, au moins, je pense.
Mais Riyad Mahrez, il jouait quasiment jamais, les amis. Mais
franchement, qu'on se dit la vérité, c'est maintenant qu'on voit son importance.
Mais il jouait même pas.
Non, si. Franchement,
il était tellement important dans le coup.
Il jouait.
Il avait un temps de jeu très, très faible.
Non, mais.
À la dernière saison, il jouait.
C'était joli psychologiquement pour l'adversaire.
Mais tu vois, dans les matchs comme ça, c'est Riyad Mahrez qui l'aligne et il marque.
Exactement. 3 jours avant la Ligue des Champions, par exemple, tu veux mettre un peu des joueurs au repos. Je sais pas trop ce qu'il a fait Guardiola, t'as un Mahrez qui va être titulaire et ils vont gagner, il va mettre 2 buts ou il va mettre un triplé. Hein, tu regardes l'histoire de Mahrez des dernières saisons, c'est un petit peu ça.
Il est où Grealish d'ailleurs? Il est où?
Grealish, il a été titulaire,
c'est une catastrophe en ce moment. Il n'a pas débordé une seule fois contre Wolverhampton.
Il a toujours fait la même chose.
J'ai pas pu aller au bout de ma déduction, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. En fait, ils ont tellement fait la fête, et pour eux, on a vu, De Bruyne, il est arrivé en surpoids, il n'arrivait plus, et c'est pour ça que je voulais te reprendre sur De Bruyne. De Bruyne, la saison dernière, là, ils ont fait le triplé, ça y est, ils en ont gavé, ils ont couru derrière la Champions, ça fait de longues années qu'ils courent derrière la Champions, ils l'ont eu, ça y est, là ils sont vraiment gavés. Il est arrivé, Kevin De Bruyne, en surpoids, il est arrivé en surpoids, c'est ce qui a causé même sa blessure, j'ai envie de te dire, parce qu'il est arrivé en surpoids, c'était difficile à lui de jouer, et Pep Guardiola même, il le mettait remplaçant, il rentrait en jeu de temps en temps, boum boum, mais il n'a pas une bonne hygiène de vie, du coup il s'est blessé,
il a de l'âge aussi, il s'est blessé.
Ibrahima, tu penses que City est déjà rassasié?
Rassasié, non, je pense pas que ce soit le terme approprié. Par contre, ce que j'ai pu constater durant ce match contre Wolverhampton, c'est la fébrilité de la défense, notamment avec Ake et Akanji. Pas mal de pertes de balles et de mauvaises relances du côté d'Akanji, ce qui faisait rarement habituellement. Rubén Díaz était très très fébrile et Ake sur son côté gauche, c'était très très compliqué. On a vu les accélérations de Neto qui l'ont laissé très vite sur la touche. Je pense qu'il va falloir rectifier ça du côté de City. Sinon, je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter réellement. Non, mais la perte des milieux de terrain de Rodri et de Bruyne, c'est... On sent que c'est durant ce match-là que j'ai pu constater à quel point ils étaient importants pour Manchester City, surtout Rodri, parce que quand il n'y a pas Rodri, c'est comme s'il n'y avait pas de milieu de terrain, et Kovacic a été exécrable.
Et Bernardo Silva, parce que moi je reviens
mais
juste.
Cette défense de City, il y a longtemps qu'elle a la lacune.
Oui, mais De Bruyne, par exemple.
Moi, me concernant, c'est Rodri vraiment qui fait un travail incroyable au milieu de terrain.
Ah oui,
sinon, sa défense des City, elle a prouvé par moments. L'année dernière, elle a été aussi fébrile.
Ouais.
Mais même avec Rubén Díaz, ils ont eu des moments de fébrilité dans des matchs ultra importants.
Mais franchement, là, maintenant, c'est l'animation offensive. En 2 matchs, ils ont mis 1 but. Ouais. Un but. Et tu regardes même les statistiques, franchement, c'est compliqué.
Moi, j'étais étonné.
Oui, bien sûr, mais
j'avoue,
un deux matchs, ils ont
les stats de Erling Haaland.
On sait très bien que Guardiola, il était réputé vraiment pour avoir une bonne défense.
Mais il va trouver. Mais
oui,
il a effectivement.
Là, vraiment, la moi, défense, elle n'est pas au point.
Moi,
c'est qu'il y a un souci.
Je pense que moi, je ne suis pas du tout inquiet non plus. Pourquoi ? Parce que je pense que. C'est un avis qui n'est peut-être certainement pas partagé sur plateau, que Pep Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde de très loin. Et il va trouver. Il va trouver, mais effectivement, il va trouver comment jouer sans De Bruyne. Même si
mais est-ce que Guardiola, Guardiola jouer... c'est un être humain. Est-ce que non, lui aussi, mais... quelque part, inconsciemment, il n'est pas aussi, comme je parlais de
bah,
rassasié
moi,
est-ce que lui-même aussi, il n'est pas rassasié? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'un nouveau challenge? Bah, ça, c'est une question.
Oui.
Cher Abou, est-ce qu'au niveau de la direction du club, il y a des réactions, justement?
Non, mais moi j'entends tout ce que vous dites depuis le début. Je vais apporter un peu de calme, de sérénité et une voix un peu douce pour les mesdames qui nous écoutent et les messieurs. Je trouve que vous en faites beaucoup sur City. Enfin, deux défaites d'affilée sur ce début de saison. Ok, c'est deux défaites. Ok, c'est malheureux. Doku, je trouve qu'on est un peu dur avec lui. Il vient d'arriver. Vois, le mec, il vient d'arriver doucement.
Excusez-moi, mais attendez, là, j'ai pas tiré sur Doku. Hein.
J'ai juste
dit les recrutements ont été deux coups. Malik, il a commencé à rigoler tout seul. Malik a commencé à rigoler tout seul.
Tais-moi quand tu le dis.
En vue des départs, Gundogan, il est parti. Riyad Mahrez, il est parti. Il y en a d'autres qui sont partis.
Le recrutement, c'est peut-être le meilleur, entre autres aussi, le meilleur défenseur du monde. Payé 90 millions, 10 millions. Et t'as que la porte.
Je vais juste essayer d'en placer une, Stéphane, si tu le permets. Pour moi, déjà, Doku, moi, je pense qu'il va faire une saison très honorable. Je me rappelle de la première saison de Mahrez à City, c'est 5 buts et 7 passes décisives. C'est d'ailleurs sa plus mauvaise saison à City et c'est sa première saison. Il quitte Leicester pour City. Là, c'est pareil pour Doku. Il quitte Rennes pour City. Je pense qu'il tournera autour des 5 buts et 7 passes décisives. Faut pas s'attendre qu'il ait le même rendement directement.
En tout cas, il est très vaillant.
faut pas s'attendre qu'il ait le même rendement que Riyad Mahrez. Quant à Rodri, ouais, Rodri, il est pas là, mais c'est de sa faute à Rodri, quoi. Enfin, quand tu t'agresses physiquement un joueur sur le terrain, faut pas s'étonner de plus être là après. Donc, quand Rodri il aura purgé ses matchs de suspension, il reviendra, il fera beaucoup de bien à cette équipe-là, pardon. Et défensivement, ils ont recruté Guardiola qui est là pour, qui est là en tout cas pour solidifier cette défense. Mais le problème, c'est que Guardiola, tu le fais jouer à gauche. Et je trouve que City, depuis l'affaire Benjamin Mendy, ils ont pas réglé ce problème à gauche. Il y a toujours eu une faiblesse côté gauche qui a affaibli l'ensemble de l'équipe. Tu es obligé de bricoler en mettant Cancelo à gauche, en faisant parfois jouer Kyle Walker. Et c'est ça qui cause tous ces problèmes-là. Mais est-ce qu'on est sur une fin de.
Et pourtant, avec tout ce que tu viens d'évoquer. Malgré tout, non. City a été champion d'Angleterre et champion d'Europe.
Et moi, je pense que c'est les favoris.
Est-ce qu'il faut s'attendre justement à un changement tactique, voire même à un mercato dès le mois de janvier au niveau de City?
Mercato, non, je pense pas, mais changement tactique, sûrement.
Je pense pas que Guardiola il va acheter des joueurs et tout. Non, je pense pas. Parce que Guardiola, c'est quelqu'un vraiment qui agit très vite, c'est-à-dire face à ces deux défaites. Je pense qu'il va apporter du changement. Dans ses discours, c'est quelqu'un qui est
très clair.
Oui, mais
dans les changements, il peut justement opérer des
changements,
une voire deux recrues pour le mercato de janvier déjà.
Mais pas pour le mercato, parce que général, la plupart du temps, Guadeloupe, il prépare ses mercato en été. C'est rare qu'il fait des mercato.
Mais si d'aventure, les résultats vont de mal en pis, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir devoir envisager dans tous les cas. Hein.
Moi, je pense que cette équipe, elle va réagir. City, elle va réagir, c'est bon, par moment. Il y a eu des moments comme ça. Et le titre de 2018, ben, il a perdu, je pense qu'à la mi-décembre, il perdait le titre. Mais après, ils ont réagi face à une victoire, face à Liverpool. Après, ils sont revenus, donc c'est comme ça. Ils sont par moment habitués par ces périodes de faiblesse.
Un mercato en janvier, Ibrahima, au niveau de City?
Je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Je pense que là, les soucis, ils sont surtout... Il va falloir que Guardiola revoie un peu tactiquement, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Eladj, au niveau de l'animation offensive, c'est très très faible. Doku, il est plutôt... Enfin, on sent qu'il tente, il essaye, malgré... C'est pas toujours évident, mais on rappelle quand même qu'il joue au Stade Rennais il y a quelques mois. Aujourd'hui, l'arrivée sous Guardiola, c'est quand même un autre monde. Mercato, je pense pas. Maintenant, après, c'est sûr qu'il va falloir solidifier la défense et trouver une solution, parce que Ake, Ruben Dias, ça n'a pas été bon ce week-end et... Va falloir pallier à ça très vite.
Bah, un seul match, déjà, on remet en question la qualité de deux joueurs comme Ake et Ruben Dias.
Non, Dias, c'est aussi pour moi des tout meilleurs défenseurs. Après, comme on dit, il y a une animation, notamment LH pointé du doigt l'animation offensive. C'est sûr que quand tu perds De Bruyne, encore une fois, ce que je voulais rajouter juste sur De Bruyne, c'est que l'année dernière, il n'a pas été spécialement là non plus dans les matchs importants. Je me rappelle notamment, moi, de même la finale. Je crois que la finale, il sort très vite blessé, De Bruyne. Il doit jouer 20 minutes ou 25 minutes, la finale. La demi-finale retour contre le Real Madrid, je me rappelle plus s'il a joué très longtemps. Donc, il a appris un peu à s'en passer un petit peu. Et puis, Bernardo Silva, c'est quand même un joueur, joueur énormissime. Donc, quand il te manque, je te dis, les deux meilleurs joueurs de ton équipe. Là, je parle du jeu pour faire
donc,
du
pour
jeu.
Donc, pour toi, Mercato, ça reste en l'état actuel pour toi,
ouais,
le
pour moi,
au niveau
si Bernardo Silva
sera pas animé
et se remet rapidement de sa blessure, peut-être que si De Bruyne ne revient pas, il cherchera à le remplacer. Mais effectivement, c'est pas trop le genre à aller chercher un joueur comme ça. Puis qui est-ce qui peut aller, qui peut prétendre aller à City, un jeune ailier quelque part qui coûte pas très cher et tout, mais il va prendre quoi? Il va essayer de prendre Kylian Mbappé par exemple en mois de janvier, ou Ousmane Dembélé.
Je pense qu'il a plus besoin d'un relayeur éventuellement. Mais justement, Eladj, selon toi, avec ces deux défaites d'affilée, y a des enseignements que Guardiola justement devrait tirer de ces deux défaites?
Franchement, je ne sais pas s'il devrait en tirer ou quoi. Et je voulais juste préciser, moi, Doku, j'aime vraiment ce qu'il propose.
Non, mais on a fini avec Doku.
D'accord,
là.
Oui, non.
Là, on est sur Guardiola.
D'accord, mais je voulais juste repréciser. J'aime beaucoup ce qu'il propose. L'explosivité qu'il propose, j'aime beaucoup. C'est juste le reste autour.
Il ne se bat pas beaucoup.
Maintenant, je ne sais pas ce que Guardiola va pouvoir faire. Hein, il est obligé d'attendre que les blessés reviennent. Parce qu'en vrai, même sur le marché, il n'y a pas grand monde. En hiver, il ne va pas avoir de grands joueurs en hiver.
Voilà, c'est exactement ça.
Il sera obligé de faire avec. Kevin De Bruyne est blessé 4 mois. Espérant que s'il revienne, il soit bien conforme. En tout cas, il a la bonne taille, etc. Le bon poids et qu'il est reparti sur les chapeaux
de roue. Tu peux me regarder le classement de l'APL, s'il te plaît?
Le premier c'est Manchester City avec un point d'avance sur Liverpool. Liverpool qui ont perdu Tottenham.
Arsenal se retrouve à quelle position?
À la troisième position.
Arsenal avec combien de points?
Regarde bien.
Arsenal est à la troisième position.
Je dis pas que je suis sûr moi non plus.
Stéphane est là, oui.
Alors on a Manchester City en première position avec 18 points. Je rappelle qu'on est à la 7ème journée. Tottenham en deuxième position avec 17 points. Arsenal en troisième position avec 17 points. Liverpool en quatrième position avec 16 points.
Donc Liverpool 16 points, ok. Ouais,
parce que Liverpool était en train de gagner le match contre lui, et c'est à ce moment-là que j'avais regardé le classement.
Aston Villa en cinquième.
Il y a 2 points.
Bon, il y a quelque chose aussi qu'il faut qu'on mentionne quand même, c'est que c'est vrai que City a perdu 2 matchs successifs, mais dont un match en coupe. Hein.
Et à Newcastle, donc, voilà, c'est quand même pas. Donc un match en coupe. C'est quand même pas n'importe
donc,
qui.
Donc l'idée, c'est aussi justement de dire que c'est pas 6 points de perdu. En championnat, c'est une élimination en coupe et donc 3 points au niveau du championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le calendrier de City, on peut quand même avoir de l'espoir au niveau des supporters et tout ça, sachant que City n'a pas encore joué vraiment des gros et a déjà perdu un match, on va dire, en championnat? Est-ce que malgré tout, ça peut laisser de l'espoir au niveau des supporters, comparativement à ce qui s'est passé la saison dernière?
Les supporters, ils n'ont aucune crainte à avoir. C'est comme un cancérologue qui a un cancer. Enfin, il n'y a rien. Tu vas te soigner toi-même et ça va avancer. Il n'y a pas de... Enfin, on parle de City. Hein. On parle... Ok, je comprends, 2 matchs, 2 défaites, c'est flippant. On parle de City, les gars. Il n'y a aucune crainte à avoir. C'est des problèmes de riches. Ils vont finir champions sans trop de pression. Je me rappelle de Guardiola l'année dernière, un match où il a perdu, il était derrière Arsenal, qui disait, de toute façon, ils étaient à 8 points d'Arsenal à cette époque-là, de toute façon, Arsenal finira champion. Je me rappelle de Guardiola qui, avant d'affronter Nottingham Forest, de toute façon, ils ont 2 Ligues des Champions et nous, on n'en a qu'une. Ce mec, c'est le plus grand acteur de l'histoire du football. Il va faire un truc avec son équipe. C'est le gars, quand même, qui a réussi à faire de John Stones un 6 de folie sur la fin de saison dernière. Je suis pas inquiet.
Mais est-ce que l'avantage que City a aujourd'hui, c'est qu'on a un Liverpool qui est très en dedans, malgré tout?
Franchement, honnêtement,
cette
saison, Liverpool, ils sont au top. Hein. C'est pour ça que je dis Liverpool, attention, cette saison, moi je les regarde jouer, ils me surprennent. Ouais, mais même à 10 contre 11 contre Newcastle, ils gagnent 2-1.
En fait, le souci que j'ai, c'est que je compare aussi le Liverpool d'il y a 3-4 ans, tu vois.
C'est plus le même.
C'est aussi peut-être pour ça que j'ai cette référence de ce Liverpool-là. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à voir Liverpool cravaché, mais durement.
Moi, je te donne
très souvent dans les derniers instants pour emporter un match.
Arsenal,
cette domination écrasante, totalitaire comme ça qu'elle avait jadis. Oui, vraiment.
Personnellement, je vois plus Arsenal peut-être aller essayer titiller Manchester City.
Arsenal nous fait ça le coup depuis 2000.
C'est vrai, mais là, bon. Malgré la blessure de Saka, si tout se passe bien.
Il est revenu. Si Kaya... Il n'est pas blessé, il est revenu.
Ah, il est revenu ?
Il a marqué.
Ah oui, c'est vrai. Non, apparemment, il s'était blessé.
Non, week-end. Il s'est blessé ce week-end.
Oui,
il s'est
blessé.
Il est sorti sur blessure.
Oui, il est blessé. Il est incertain contre Lens, je crois.
Il était blessé.
Arsenal, moi, je pense qu'Arsenal, Arsenal, vraiment, la saison dernière, si c'est pas la blessure de Saliba, je pense qu'Arsenal, il joue le titre. Parce qu'à un moment donné, quand tu perds William Saliba.
C'est marrant, Saliba, il dit la même chose. J'ai vu une interview, lui, il dit pareil. Si j'avais joué, on aurait peut-être
pu. Moi, je l'avais dit. Saliba, qui dit la même chose, mais Saliba, il a tout prouvé. Arsenal, il a fait toujours des matchs accomplis.
Saliba, il a fait une bonne saison.
Mais Stéphane,
je suis pas d'accord.
Mais le problème, il était dans l'équipe de la Premier League. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
Franchement, Stéphane, tu sais, c'est quoi le problème? Parce que tu regardes pas les matchs.
Attends, elle a dit Enza.
Tu regardes pas les matchs.
Cette saison, je vois Arsenal aller jusqu'au bout. Pourquoi pas décrocher le titre? Parce que ça dépend. Même City, déjà, ils n'ont pas De Bruyne. Ils n'ont plus vraiment le même effectif qu'ils avaient il y a deux saisons. Parce que par moment, quand ils avaient des matchs en difficulté, Mahrez apportait un surplus. Par moment, quand c'était un peu difficile, il y a des joueurs vraiment qui étaient là, qui arrivaient vraiment, vraiment à faire remonter le moral de l'équipe, qui faisaient des matchs importants. Mais cette saison, ce n'est pas pareil. Si vraiment tu croises des joueurs comme... Et tu croises des équipes comme City, comme Newcastle par moment, ou peut-être des équipes comme Brighton et tout, mais c'est pas avec certains deux coups que tu pourras vraiment rivaliser.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui on a fait un focus sur deux coups et non sur Manchester City.
Et c'est bien,
et n'empêche
dommage.
Que vous êtes quasiment tous optimistes quant à la progression de City dans ce championnat de Premier League. On va marquer une pub avec notre ami Jason, et puis on va parler de l'Olympique Lyonnais, parce qu'à l'Olympique Lyonnais, rien à voir avec les performances de City. À l'Olympique Lyonnais, rien ne va plus, parce que l'Olympique Lyonnais est dernier justement de la Ligue 1, et c'est triste.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Quand je l'ai quitté, il a commencé à m'envoyer des insultes et des menaces sur mon Facebook. Pour se venger encore plus, il a publié des photos de moi trafiquées. Maintenant, plus personne ne me regarde de la même manière. Je me sens humiliée, salie, et prise au piège. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours seule. Sali, je me supporte même plus. Faut que j'en finisse.
Si Kenza en parlait à quelqu'un, elle pourrait éviter le pire. Stop au silence avec Sourire de Reda, association marocaine pour aider les jeunes en souffrance et prévenir le suicide. Exprime-toi sur la fanpage Facebook Sourire de Reda.
Retour antenne avec nos amis Stéphane Desenclos. Le débat se poursuit, hein, même en off. Hein. Stéphane Desenclos, Philippe Carly qui nous a rejoint. Ouais, Cheikh Enza, Ibrahima, Abou et El Hadj. La crise à Lyon, justement. Les supporters sont furieux, on l'a dit. Hein, les joueurs sont complètement désespérés. Les dirigeants absents. Qu'est-ce qu'il se passe à Lyon? Qui faut-il blâmer? Lyon aujourd'hui est dernier du classement de Ligue 1. Les amis, rien ne va à Lyon. Il y a à peine une semaine, on en parlait. Mais de là à penser qu'aujourd'hui, lundi, Lyon serait dernier du classement, Philippe Carnu.
Ce n'est pas une surprise, on en parlait jeudi. Malik, quel est le problème? C'est l'équipe dirigeante. Ce ne sont pas des gens de sport, ce ne sont pas des gens de football. Donc il n'y a pas de projet sportif. Et tant qu'il n'y aura pas de projet sportif, eh ben, naturellement, les entraîneurs ne s'y reconnaîtront pas. C'est le défaut du foot actuel. Hein. On en parlait, Bordeaux a connu ça, Sochaux a connu ça, Lyon connaît ça. Les patrons type Jean-Michel Aulas ne sont plus véritablement propriétaires de leur club. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de projet sportif. Et c'est un club qui, malheureusement, ce qui arrive, était envisageable et prévisible. Alors, on pouvait dire ce qu'on voulait du président Aulas. Il avait parfois tendance à être un petit peu excessif, à couvrir un petit peu trop parfois ses joueurs. Mais enfin, c'était un véritable taulier et c'était son argent.
Mais il y a quelque chose que tu as évoqué qui m'interpelle.
Oui, oui.
Tu as parlé de Bordeaux.
Oui.
Et je sais qu'il y a quelques années déjà,
oui.
Christophe Dugarry, ancien Bordelais,
mais oui.
tirait la sonnette d'alarme quand Bordeaux était encore en Ligue 1.
Mais oui, Bordeaux,
et je regarde, je fais en fait un lien
Sochaux,
avec.
Sochaux,
je fais un lien avec ce qui se passe aujourd'hui à Lyon. Je sais que depuis quelques années, il y a Sidney Gouvou qui n'arrête pas justement de tirer aussi la sonnette d'alarme. Parce que, étant ancien Gaulle,
ce sont des gens du business.
Et aujourd'hui, je me rends compte que Lyon est en train de prendre le chemin
on peut quand même de
Bordeaux, de la Ligue 2.
Tout à fait, exactement. Moi, je pense sincèrement, je suis prêt à le parier aujourd'hui, mais il faudrait que en regardant les matchs, je pense que je verrai que Lyon file tout droit vers la Ligue 2.
Mais donne pas les pronos.
Vers la Ligue 2, mais non, c'est par exemple, excuse-moi deux secondes, c'est chaud, j'ai donné un prono ici, deux.
On revient sur Lyon.
L'Argentine championne du monde et Mbappé reste
Stéphane Desenclos, voilà. Les auditeurs nous écoutent, on est sur Lyon.
Je sais justement, mais ça permet de le dire. Et Lyon. Je ne veux pas faire l'avocat de John Textor, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Ça fait quand même 5 ans qu'il se passe n'importe quoi à Lyon. Ça fait quand même 5 ans, j'exagère peut-être. Mais pas loin, quoi. Je veux dire, à part l'embellie, le Final Four en Ligue des Champions, c'est quand même une catastrophe. Ce club n'arrive pas avec Aulas à faire mieux que 6e ou 7e du championnat. Et maintenant, sans Aulas qui lâche, et ils perdent effectivement... Je suis un peu extrême en disant que je les vois descendre, mais ils vont terminer.
Ils vont terminer 10e, 12e,
mais en tout cas, ils sont.
Non, mais est-ce que vous n'êtes pas dans le souvenir de l'Olympique Lyonnais qui nous a fait rêver en Ligue des Champions?
Moi, je pense, si j'ai
aujourd'hui, Lyon est dernier. Moi, je les ai vus jouer ce week-end. J'ai pris, franchement, après, je regardais parce que voilà, il faut regarder malgré tous les matchs.
Malgré
j'ai souffert. Je ne suis pas supporter Lyonnais, mais j'ai souffert.
Mais moi, tu as regardé par exemple Clermont, tu regardes, et quand tu compare par exemple avec Clermont Paris Saint-Germain, même si c'est pas on peut dire plein de choses sur le Paris Saint-Germain, quand tu vois Clermont jouer contre le Paris Saint-Germain, tu vois autre chose, tu vois une équipe, tu vois des joueurs, tu vois
Clermont était dernier avant.
Ouais,
là ils sont juste avant-dernier simplement.
Tu vois, c'est pour ça qu'on peut s'inquiéter pour Lyon. Tu vois une équipe organisée, se comporter, un état d'esprit, une mentalité complètement différente de celle de l'Olympique Lyonnais. Donc tu dis, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont te voir
Chakenza, Stéphane parlait d'organisation, de s'employer, tout ça. Est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais peut retrousser les manches et reprendre un peu le dessus?
Oui, c'est possible. Après, ce qu'il a dit, il y a pas mal de vérité là-dedans. Et déjà, ce problème, ça n'a pas débuté sous la nouvelle direction. C'est-à-dire la direction d'avant, déjà, il y avait des problèmes. C'est-à-dire Lyon était une équipe qui était habituée à jouer la Ligue des Champions. Si à un moment donné, ça baisse de niveau, on parle de Ligue Europa, à un moment donné d'Europa Conférence, c'est-à-dire vraiment, il y a un problème. C'est là, c'est dès cet instant-là qu'il devait régler les choses. Parce que je pense que la formation lyonnaise qu'il y avait autrefois, ce n'est plus la même formation. Lyon était réputé pour être l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Aujourd'hui, Lyon ne forme plus des top joueurs, comme on a eu le cas des joueurs passés, je pense que des Benzema et tout ça, des Benafa et tout, une belle génération. Même avec les Lacazette, ça allait, des Tolisso, tout ça. C'était pas mal de joueurs. Des Golano, des Maxime Gonalon, tout ça, il y a eu beaucoup de joueurs. Mais
excuse-moi
aujourd'hui, c'est pas des top joueurs qui forment. Même on parle du petit Barcola, moi je trouve rien d'exceptionnel à Barcola.
Elle a dit, il finit, tu enchaînes derrière. Oui,
je trouve rien d'exceptionnel à Barcola sur un terrain de football, comparé à Lukeba qui n'a pas assez prouvé. Mais aujourd'hui, c'est plus du business. Et pour ça, je pense que Lyon, déjà, il va falloir reformuler la formation. Et ensuite, peut-être faire confiance à un entraîneur sur une durée. Avec Fabio Grosso, il faut qu'il le laisse aller
donc,
au bout
toi,
de son
toi, tu fais
contrat.
Confiance à Fabio Grosso jusqu'à la fin de la saison.
Oui, parce que moi, je pense que...
Quoi qu'il arrive.
Jusqu'à
quoi qu'il arrive, il faut donner du temps.
Quoi qu'il arrive.
Oui, quoi qu'il arrive, il faut donner du temps. Parce que déjà, on ne peut pas juger un entraîneur.
Lyon descendrait en Ligue 2 avec Grosso,
non,
c'est ça?
Non, mais pas jusqu'en Ludo. Au moins, laisser jusqu'au moins la prochaine trêve. Mm-hmm. Pour voir au moins comment ça se passe et tout. Pour voir ce qu'il propose comme jeu. Parce qu'on ne peut pas changer d'entraîneur chaque 6 mois.
Et là,
c'est pas possible.
Selon toi, quelles sont les principales causes justement de tout ce qui arrive à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui?
les causes, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils ont vendu beaucoup de pépites. Et franchement, c'est un centre de formation qui continue à former des pépites. C'est ce que là, je voulais te dire chez Kenza.
Non,
Barcola, il est sorti. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Barcola, mais il est encore jeune. Il n'a pas signé au PSG pour rien. Il a fait une bonne saison avec Lyon. La saison dernière, il a fait une très bonne saison avec Lyon. Tu regardes pas les matchs aussi?
Non, okay.
Mais je te le dis, il a fait une très bonne saison. D'accord, mais il a fait une très bonne saison.
Regardez 50 matchs en un week-end.
Attendez,
Barcola à son âge.
Malik, tu peux.
Barcola,
j'arrive pas à parler.
Barcola à son âge. Benzema était déjà à Madrid.
Regarde 5 matchs en même temps.
Benzema était déjà à Madrid. Barcola, il a quel âge? Il a 21.
Mais on t'a pas dit. Excuse-moi. Chez Kenza, tu peux me laisser finir, s'il te plaît?
Chez Kenza. Le micro est là. Oui, tu termines ton propos. On a le temps, tu pourras réagir derrière éventuellement.
Oui, je t'explique. Barcola, la saison dernière, il a fait une bonne saison, voire une très bonne saison. C'est lui qui a fait le plus de passes décisives à Lyon. Et franchement, il finit, je sais pas combien dans le top 4, mais tu le vois, franchement, tu le vois même sur le terrain, l'explosivité qu'il apporte sur le terrain. On t'a pas dit qu'ils forment tous des Benzema. Non, on t'a juste dit que Luke Eba, il a fini à Leipzig ou à Chelsea.
À Leipzig.
Luke Eba, il a fini à Leipzig.
Malo Gusto à Chelsea.
Il a marqué dernièrement d'ailleurs. Malo Gusto, il a fini à Chelsea. Ils ont vendu Barcola au PSG. Franchement, en fait,
ce que vous dites, je pense que vous allez vous rejoindre. Lui, il dit que Lyon forme pas autant de jeunes que par le passé. Sauf que lui, il est en train de te démontrer que Lyon forme des jeunes, sauf que ces jeunes-là ne restent pas du tout longtemps comparativement
là, ils l'ont vendu
à ce qui se faisait avant. Un Benzema pouvait rester 3 ans à la limite. Aujourd'hui, à peine une saison, t'es déjà parti.
Il faut du cash, c'est un peu ça. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas, John Textor, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Un peu de cash, ils sont partis. Moi, je pense que maintenant, John Textor, il a voulu rassurer un peu le public, etc., les supporters, en disant que cet hiver, il n'y aura pas de contraintes, etc., à la trêve, et qu'on va recruter. J'espère pour eux que c'est vrai. Après, moi, je le dis franchement, la Ligue 1, c'est un bon championnat, mais voilà, franchement, si on attend jusqu'à la trêve et ils réussissent à recruter quelques joueurs et ils enchaînent 3-4 victoires, ils sortent très rapidement de la zone rouge. Vous voyez, c'est pour ça que j'y crois pas, en tout cas, à la descente. Aujourd'hui, en tout cas,
je ne sais plus, de mémoire, Ibrahima, je
crois dans d'autres championnats avec des magouilles, peut-être, mais je pense qu'ils vont.
Parce que Textor, il a dit ce discours-là, qui est son discours-là, que moi je trouve très très malvenu, et son communiqué va encore plomber complètement Lyon. Ce discours, c'est le discours qu'il tenait exactement au mois de juin ou au mois de mai de cette année, hein. Qu'il n'y avait pas de problème, que tout allait bien, qu'ils allaient y arriver, qu'ils allaient faire ce qu'il fallait, tout ça. Il a pas fait. Effectivement, oui, là, tu as raison. Saint-Etienne l'a bien fait. Saint-Etienne, ils étaient bien en train de en Ligue 2. C'est en Ligue 2, certes, mais de descendre en National, ils ont recruté et ils ont réussi à sauver.
Donc, ils ont appris. Justement, on parle toujours de Lyon. Lyon, vous avez de l'espoir à vous entendre parler. Et là, du Stéphane. Mais
non, moi, j'ai pas d'espoir.
C'est quoi le prochain calendrier, là, les 2-3 matchs à venir de Lyon, là?
Concernant les deux prochains adversaires de Lyon, le 8, ils affrontent Lorient.
Lorient.
Le 22, ils affrontent Clermont. Et le 29, Marseille, ouais, au Vélodrome.
Marseille. Ça va être trois matchs très difficiles.
Il faut pas les deux
Marseille
matchs.
Non plus n'est pas bien classé. Lorient, c'est, on va dire aujourd'hui, c'est la concurrence, hein, au niveau de la descente.
Lorient, Clermont. Il faut qu'ils fassent
Clermont, pareil, avant-dernier, à ce jour. Je veux dire que c'est trois matchs très très difficiles qui arrivent pour Lyon.
Les deux prochains matchs, c'est à domicile, Lorient et Clermont,
ouais,
à domicile.
Est-ce que justement c'est pas un piège en définitive,
points, ils sont morts,
de jouer à domicile? Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire?
Non, ils sont meilleurs à Reims.
Cher Abou.
Ouais, c'est sûr que. En tout cas, moi je pense, hein, que. Moi je regarde pas tous les matchs, moi non plus. Désolé, là.
Personne, je te rassure. Personne.
Mais non. Je pense que Lyon c'est tendu, c'est chaud. Moi je lisais la déclaration de Moussa Dembélé ce week-end.
On y reviendra justement, on y reviendra.
Sur le club, et c'est terrifiant. Lyon, ça me terrifie vraiment. Mm-hmm. Et leur prochain adversaire, en fait, le problème, c'est que, comme tu le dis, Malik, ils jouent des gars qui, eux aussi, se battent pour montrer bonne figure. Ils vont jouer Marseille, qui doit se relever. Ils vont jouer Lorient, qui, pareil, Régis Lebris, là, il a son équipe qui est en train de dégringoler petit à petit et qui doit remonter. Et Lorient, qui est une équipe très joueuse, très belle équipe. Et Clermont qui ce week-end contre le PSG fait un 0-0, mmh, et qui est une équipe qui joue le maintien mais qui sait aussi faire face au gros. Donc face au gros Lyon, c'est pas un gros, mais moi ça m'inquiète pour Lyon. En tout cas le mois d'octobre il va être décisif.
Oui Ibrahima, ton sentiment par rapport à cette équipe lyonnaise avec tout ce qui lui arrive?
Alors moi en ce qui me concerne, ce que je voulais dire surtout, je voulais surtout parler de l'effectif avant de parler de la direction ou quoi que ce soit. En quelques années, on est passé de Memphis Depay à Mama Baldé en attaque.
Et pourquoi Memphis, non,
mais... il a été beaucoup critiqué, hein, oui. souvent
j'ai
à juste titre.
Croire,
mais ça reste quand même.
Dit qu'il était bon Baldé. Hein. J'ai oui. Comment j'ai
ça reste... Il a fait une bonne saison.
Les amis, les amis, là, finir, c'est pas le débat vous entre vous deux.
Vas-y, vas-y.
Ouais. Stéphane et Elad, c'est pas entre vous deux.
Ça reste quand même un bon joueur de foot, Memphis Depay. Et aujourd'hui, on voit avec Mama Baldé et Ryan Cherki en attaque, c'est vraiment très compliqué. Et après, concernant l'ensemble de formation, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été très surcotés, notamment Ryan Cherki, Maxime Cacré, que je trouve pas excellent, qui sont toujours... on sent que c'est toujours compliqué. Ryan Cherki fait très peu de différence en attaque. Pourtant, on nous l'a vendu comme le futur Karim Benzema fut un temps. Tagliafico, c'est compliqué. Enfin, franchement, l'effectif. Et surtout, je voulais souligner, il y a une flopée de joueurs qui viennent d'arriver de Belgique. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Notamment, j'ai l'impression que chaque week-end, on découvre un nouveau joueur à Lyon, avec notamment O'Brien, je ne sais pas qui... Enfin, je ne sais pas d'où il vient.
Pour, juste pour répondre à sur ça.
Je sais que Textor possède le club de Molenbeek aussi et qu'il y a des joueurs qui ont été envoyés. Mais...
Et d'ailleurs, il y a une, enfin, enquête, y a une enquête qui a été diligentée, qui est en cours sur ce qui se passe dans ce que fait
avant
en tout
de
cas John Textor.
Des enquêtes, pourquoi ne pas interdire même que un seul individu soit propriétaire de 2, 3, 4.
C'est interdit. Tu n'as pas le droit de participer, combien que Toulouse le fait, il trouve encore des Tu n'as pas le droit de participer normalement aux mêmes compétitions européennes, mais tu as le droit d'avoir plusieurs clubs. Maintenant, effectivement, ça va peut-être faire jurisprudence, cette histoire de Lyon qui est interdit de recrutement, quoi, qui ne peut pas recruter, qui recrute. C'est Molenbeek qui recrute un joueur, là, l'ailier ghanéen, et qui le prête, qui le repaye 25 millions d'euros et qui le prête. Qu'il prête à Lyon. Ça, c'est sûr, et ça a été dénoncé. Il y a plusieurs clubs, présidents de clubs de Ligue 1, ont écrit pour demander une enquête par rapport à ça, en disant que c'est bizarre. Donc, ça effectivement, c'est sûr.
Et juste pour rebondir sur ce qu'il disait Ibrahima, quand tu dis qu'il y a des joueurs qui sont surcotés, Ryan Cherki, Maxence Cacré, entre autres, moi, je pense pas que ce soit des joueurs surcotés. Je pense juste qu'ils sont dans un collectif qui les tire vers le bas. Je pense que tout le monde doit quitter ce club. On est dans une maison infestée de punaises de lit. Il faut partir au plus vite. Faut libérer la baraque, la laisser à d'autres.
C'est la tendance,
parce que Cherki et Cacré, moi je les vois avec l'équipe de France Espoir.
Et bah, ils sont pas bons. Ah, là je les regarde, désolé.
Les deux derniers matchs, Cherki.
Ah, Cherki, oui, non, je te parle pas de Cherki.
Ah, non, t'as dit ils sont pas bons.
De Cacré, moi je parle de Cacré.
Non,
non, je parle. J'adore Cherki. Quand il était question qu'il vienne au Paris Saint-Germain, j'étais ravi, j'adore Cherki. Mais Cacré, je trouve que Cacré, c'est un joueur surcoté.
T'as vu la sortie de Cherki ce week-end?
Non, j'ai pas vu. Genre, j'ai arrêté.
Il a pas regardé.
J'ai regardé un match de première ligue à la place. Après une mi-temps de Brest-Lyon, là, j'ai craqué.
Baissé,
de Reims-Lyon, j'ai craqué.
Tête baissée, le moral dans les chaussettes.
Ouais,
il y a rien qui
pas
en confiance.
Tu l'as vu sur le terrain déjà. Dès que quelqu'un lui donne pas le ballon ou quelqu'un fait un truc qui va pas, il fait signe et tout, il a le moral dans les chaussettes. Il voulait partir. Il se dit pourquoi Barcola et Luqueba sont partis et pourquoi moi je suis pas parti. Pourquoi ils m'ont gardé.
Le moral dans les chaussettes, il y a pas que lui, justement. Comment se comportent les joueurs niveau de Lyon, comment est-ce qu'ils réagissent, surtout mon cher Abou, on a vu là, une sortie de Moussa Dembélé récemment qui justement critiquait vertement le club.
C'est ça, Moussa Dembélé, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, lui qui a passé 5 ans avant de partir libre en Arabie Saoudite. Je cite Bruno Chéry et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs. C'était un gros manque de respect, je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d'esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain, il faut respecter les gens. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi? Des consommateurs. Son discours est très dangereux et irrespectueux. Ensuite, dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Interrogé sur sa situation à l'OL depuis le début de la saison, il ne s'est pas montré plus tendre avec les dirigeants actuels, je cite. En fait, il faut bien comprendre une chose, le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Ah, ouais. Voilà le problème majeur. Ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters. Par exemple, quand ils sont venus parler du projet ADN-OL à l'été 2022, on a vu que c'était du marketing. Pour vous dire, on a rigolé dans le vestiaire, mais les supporters, eux, tombent dedans. Regardez les réseaux du club à cette époque, il n'y avait que des posts sur des joueurs du centre, c'était de la communication et rien d'autre. Il n'y a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte, c'est catastrophique. Ils sont incompétents, même pour vendre des joueurs. Oussem Aouar, Memphis Depay, Jason Denayer, moi, sans oublier Pierre Kalulu qui flambe au Milan, tous sont partis gratuitement. Ils ne sont même pas capables d'anticiper pour ne pas se retrouver dans cette situation.
Malik, tout est dit.
Mon cher Philippe.
Tout est dit, voilà, c'est ça. Voilà, c'est business. Mais, c'est des gens qui n'ont aucun projet sportif, qui ne connaissent rien au foot. Ouais. et puis bah, qui ne travaillent pas dans l'intérêt d'avoir un projet sportif, c'est simplement pour faire des bonnes affaires et du business.
Je suis désolé, il a raison et je suis d'accord avec tout ça, mais Moussa Dembélé, par exemple, ce n'était pas John Textor qui allait blinder son contrat. Quoi. Dembélé, par exemple, c'est de la faute de la gouvernance quand même de Jean-Michel Aulas ou de Chirou.
Non, le problème de sur la fin, c'est qu'on pouvait lui reprocher, il y avait trop de personnel.
Memphis Depay, même quand elle est partie aussi en fin de contrat libre,
il avait plus les pleins pouvoirs, Aulas, il avait déjà laissé la moitié du club.
Oui, mais il y a quelque chose qui ressort souvent, Stéphane. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui est bien proche de l'Olympique Lyonnais ici, en tout cas en termes d'informations, c'est bien toi. Il y a un vestiaire qui est complètement pourri aussi.
C'est normal.
Au niveau des joueurs là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de remontées d'informations. On a l'impression que tout se passe bien et que c'est juste un mauvais moment à passer. Alors qu'en fait, de l'intérieur, les joueurs ne s'entendent pas. Il y a des clans qui sont formés. Il y a ceux qui ont été formés à l'Olympique Lyonnais. Il y a ceux qui ont été recrutés cette saison. Les anciens n'intègrent pas les nouveaux, c'est ce qui se dit.
Et puis moi, les anciens perdent leur niveau.
C'est ce qui se dit. Hein. Il y a des clans aujourd'hui au niveau de l'Olympique. Est-ce que c'est vrai, déjà?
Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait vrai qu'il y a des clans, il y a des jalousies. Je le disais tout à l'heure, là, je ne sais pas, la sortie de Cherki, c'est clair que Cherki se dit en ce moment, Loukeba est parti, Barcola est parti, moi on m'a empêché de partir alors qu'il avait une proposition.
Oui, mais on t'a empêché de partir, donc fais une bonne saison pour partir la saison d'après.
Il se dit ça. Lacazette, il se dit, moi j'ai refusé d'aller en Arabie Saoudite, j'ai refusé toutes les portes qu'on m'ouvrait, enfin truc pour ce club parce que j'y crois et tout. Forcément, il le dira jamais, mais il va forcément, c'est forcément des choses qu'il se pense quoi. Et à l'intérieur du vestiaire, et puis par rapport à ce manque, surtout là on parle de dirigeants actuels, le manque d'un directeur sportif, un vrai directeur sportif, une vraie politique sportive. Il suffit de voir si ça ne choque personne, mais le communiqué de John Textor, c'est unique dans les annales du foot, quoi. Je veux dire, un club qui va mal, je trouve c'est unique dans les
C'est unique, sauf qu'il est loin de son club physiquement parlant.
En plus, mais exactement.
Et balance un communiqué en étant très 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 loin. Comme je dis,
on peut tout reprocher
à Aulas, mais dans une situation pareille, Aulas serait présent physiquement.
Ah ben bien sûr. Elle a dit. C'était sa force, comme tous les patrons.
Oui. Après, voilà, moi, comme je dis, hein, Aulas, très grand président, etc. On va passer ce passage-là. Depuis 2021-2022, Aulas a commencé à lâcher le club. 2021-2022, il était à la traîne, il était à la ramasse. Depuis 2021-2022, on l'a vu avec les résultats, on le voyait avec les transferts. Ce que Dembélé dit au fond, c'est peut-être dur, ou il y en a d'autres, ils le voient d'un mauvais œil ou quoi. Mais franchement, il y a beaucoup de vérité. Il y a énormément
bien
de vérité.
Sûr,
moi, je ne comprends pas. Dembélé, il jouait avec Lyon 2021-2022. Il marque exactement sur 30 matchs, parce qu'il était remplaçant déjà, et il marque sur 30 matchs, il marque 21 buts et il fait 4 passes décisives. Et je me rappelle, et c'était un but tous les matchs.
Quand même.
Tous les matchs. Comment la saison d'après, il peut être remplaçant? Il n'est pas vendu. Il est remplaçant. Parce que, excusez-moi, mais Dembélé, à ce moment-là, je le voyais dans un plus gros club. Ouais. Là, pour moi, il montait de catégorie. Il a 27 ans.
On le voyait en équipe de France. Hein. Il y a 3-4 ans, on le voyait en équipe de France.
Il a 27 ans, Dembélé. Il a 27 ans. La gestion de Dembélé a été catastrophique. Franchement, lui, qui soit vraiment énervé ou remonté contre le club et contre les anciens dirigeants et les nouveaux...
Mais tu parles de Dembélé. Moi, je vais même aller encore plus loin. Moi, quand je regarde Lyon jouer, il fut une époque où... Je ne voyais pas de passe délivrée à Dembélé ni à Toko Ekambi. Il y avait cette espèce de joueurs formés à Lyon là, qui étaient entre eux. On a tous joué au football à un niveau moindre, certes, mais à un moment donné, le jeu, il y a des senteurs quand tu joues. Quand la balle doit aller à gauche, elle va à gauche.
Lui, je crois qu'il
quand
explique.
Elle doit aller à droite, elle doit aller
je
à droite.
Je crois qu'il explique dans l'entrée.
Non, mais je veux dire que justement, c'est pour apporter de l'eau au moulin de
oui, mais il marquait quand même
histoire,
des buts.
Oui, mais il marquait des buts. Non, mais c'est dire justement que malgré tout, il arrivait à claquer des buts. Et ce, malgré tout, là, il était encore sur le banc.
Je crois qu'il explique
banc.
Dans l'interview, dans c'est, la grande interview.
C'est
là,
mais c'est la même chose que Toko Ekambi.
Je crois qu'il explique que c'est à partir du moment où il a refusé de prolonger, il s'est retrouvé carrément mis à la cave.
Mais il faut se dire la vérité aussi, à Lyon, il y a, je vais utiliser un gros mot, mais il y a un racisme anti-joueurs qui n'ont pas été formés à Lyon. Il faut se dire la vérité. Dans le vestiaire, dans les tribunes, les gars qui ne sont pas formés à Lyon, quand ils ne sont pas un tout petit peu en dessous. Toko Ekambi, on l'a vu un tout petit peu en dessous, ça devient des pestiférés, insultés, humiliés, méprisés par les supporters.
Et quand ils sont pas arabes. Et je te le dis par exemple, là tu vois Cherki là, la saison qu'il est en train de faire. Non mais clairement, moi
ils ont été durs avec Aouar.
Voilà. Oui, avec Aouar, mais pourquoi avec Aouar ils ont été durs? Si tu remarques bien, Karl Toko Ekambi, ils ont été durs avec lui depuis qu'il a marqué le but contre l'Algérie. Aouar, ils ont été durs avec lui depuis qu'il a dit, il a vu qu'en équipe de France c'était impossible et il s'est dit je vais aller avec l'Algérie parce que c'est impossible avec l'équipe de France. Ils ont commencé à l'insulter, Harki, etc., etc., mais, et compagnie.
Mais ça, non, mais Toko, il l'a dit. Toko l'a dit dans les supporters lyonnais, il y a du racisme.
Je ne dis pas qu'ils le disent, c'est une notoriété publique. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des reportages.
Qu'est-ce qu'il y a de notoriété publique?
C'est une notoriété publique, des reportages sur à l'intérieur des groupes de supporters, des bad guys.
Ah ben, on n'est pas loin de Marseille, là, les gars.
Non, mais non, parce que Marseille, je sais pas.
Marseille, c'est d'autres choses, je pense.
Marseille, c'est on parle pas trop de
racisme. Non, mais là, Marseille, on parle pas de fascisme et de racisme.
Non, mais il y a une forme d'emprise dans tous les cas.
Ah oui, non, mais c'est pas la même chose.
Les supporters sur le club,
non, mais c'est pas la même chose.
Les dirigeants réfléchissent par deux fois.
J'allais dire quelque chose, justement, par rapport à rebondir ce que tu as dit là, tu aurais dit depuis 2021. Moi, je sais pas les dates exactes, là, tout de suite, mais depuis le club a commencé à tomber. À partir du moment où Aulas décide de pas prolonger Bruno Genesio
par la pression du public,
ça fait lui demande de pas prolonger Bruno Genesio d'une manière ou d'une autre. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à partir en sucette, à Lyon.
Il a tué le club Aulas.
Ben, c'est vrai que les gens savent peut-être pas, mais les supporters lyonnais ont un poids énorme, notamment sur les réseaux sociaux avec plusieurs comptes de supporters. Jean-Michel Aulas commande tout, c'est assez ridicule même à certains moments. Et ils ont un poids énorme sur les décisions que fait le club. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué.
Tous les clubs maintenant,
c'est Twitter qui dirige les clubs de foot.
Sauf certains.
Par le Real Madrid, peut-être. Mais...
Moi, je pense que. Je sais pas pourquoi c'est tout en France qu'on est victime du racisme. Tout ça, et les supporters, ils se prennent pour.
Non, il n'y a pas qu'en France. Il n'y a pas qu'en France. Vinicius récemment, en Italie.
Ouais.
C'est monnaie courante.
Mais là, en France, ça devient.
C'est un fléau qui doit disparaître. Mais c'est partout. C'est partout, malheureusement.
Là, à Marseille, l'entraîneur, il part parce qu'il vraiment, il a reçu des menaces. Même le président qui veut partir, là aussi, à Lyon. Donc, ça vous dit qu'à un moment donné, il y a un problème. Et les supporters, ils sont là pour apporter un plus. Ils sont pas là vraiment pour s'interférer dans.
Ouais, mais justement, ça, je pense que c'est un sujet qu'on va traiter dans une émission parce que.
C'est un sujet qui est très important. Et t'as beaucoup de joueurs dans ces.
On a l'impression qu'ils s'interfèrent et à un moment donné, ils se prennent vraiment pour des dirigeants. Mais si tu connais le football, tu te présentes en tant que dirigeant.
Exactement. Moi, j'ai
prennent de plus en plus de
j'ai parlé avec notamment à l'époque.
Et pourquoi, au lieu de rester en tribune, viens porter la veste et tu vas diriger le club. Parce qu'à un moment donné, c'est abusé quand même. Là,
et
c'est
surtout,
l'extrême.
Il pense que les. De toute façon, il suffit de le voir sur les. Comme tu le dis, sur les réseaux sociaux, par exemple, des choses comme ça. Les supporters s'estiment propriétaires du club. Eux, c'est eux. Et on l'a vu avec l'affaire de Marseille. Moi, je sais que j'ai. Notamment, quand il y a eu beaucoup d'affaires avec Saint-Etienne, là, ils ont eu les points de retirée, les invasions de terrain, les choses comme ça et tout. Avec des anciens joueurs de Saint-Etienne, qui est un ami que je connais très bien. Citer, c'est Dominique Battenet qui était sidéré, quoi. Il me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les supporters, ils sont là pour encourager les joueurs, ils sont pas là pour décider, pour interférer comme ça.
À vous
pour approfondir ce que tu dis, moi je pense que au-delà, c'est un problème, je pense, politique, et en France, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Il y a aussi de la part des politiques aujourd'hui beaucoup de complaisance avec ça, beaucoup de démagogie avec ça. Quand on le voit à Marseille, les politiques ils prennent jamais vraiment la parole. Benoît Payon, il est toujours dans le sens du supporter parce que.
Le maire de Marseille.
Sinon, parce que c'est les supporters qui se retournent aussi. C'est des gens qui se retournent contre quelqu'un pour qui ils peuvent voter, pardon. À Saint-Etienne, c'est pareil. En France, le législatif, il fait pas vraiment son travail. Tu peux être puni de stade 5 ans, mais que dans les matchs à domicile. Ça veut dire que si ton équipe a joué extérieur, tu peux aller. Alors qu'en Angleterre, ça peut aller jusqu'à 10, 20 ans. Ouais. Et c'est tous les stades anglais. Je pense qu'en France, le législatif, il doit faire beaucoup plus à ce niveau-là. Que les politiques doivent faire beaucoup plus à ce niveau-là et arrêter d'être dans la complaisance. Et
non, mais je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui ont davantage donné de poids aux supporters aujourd'hui.
Ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, ce qu'on appelle aujourd'hui le plan Le Prou, où ils ont chassé les... Alors là, il y en avait des racistes, dans les tribunes de Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Et ils ont essayé de lutter, ils ne sont peut-être pas arrivés complètement à leur femme. Ouais. En tout cas, le plan Le Prou, quand on parlait d'aujourd'hui, va à l'Olympique de Marseille et commence à parler d'un plan Le Prou. Mais alors les mecs, là,
on va tout de même recentrer la question pour justement vous demander chacun, est-ce que vous pensez qu'au sein du vestiaire lyonnais, il y a de vrais problèmes de personnes, de joueurs, entre joueurs et tout ça. Eladj ?
Bien sûr. Okay. Il y en a, franchement, il y en a, mais bien sûr. Mais tu vois, franchement, ils ont tous un parcours différent. Ils se retrouvent tous dans une équipe, franchement, ils se regardent les uns les autres, même s'ils s'aiment bien, etc. Ils doivent se regarder, qu'est-ce que je fous avec lui ? Tu vois ? Non, mais ça doit être clairement ça. Ça doit être, qu'est-ce que je fous avec lui ? Non, mais là, faut se dire la vérité. Cherki, il doit être entouré, mais tu sais, même, il doit regarder Grosso, il doit le regarder en mode... Mais qu'est-ce que tu veux me raconter, tu vois? Parce que Grosso, il arrive, franchement, je le dis. Hein. Ça se voit, voilà. Et je disais que ça allait être une catastrophe. Et c'est encore pire que ce que je pensais. Grosso, il apporte vraiment rien. Rien.
Ah, mais les mecs,
il arrive, il fait les mauvais choix.
C'est trop tôt pour
non, mais,
le dire.
Non, franchement,
mais
là,
c'est juste le début.
En fait, d'accord. On peut pas le juger peut-être sur les débuts.
En tout cas,
moi,
à travers le communiqué. Et là, à travers le communiqué de Textor qui est paru il y a quelques heures, il a le soutien du président. Hein,
mais bien sûr qu'il a le soutien du président. Encore heureux qu'il ait le président du.
Oui, plus que ça.
Mais bien sûr, il l'a ramené. Mais encore heureux, c'est lui, il l'a ramené. Mais
maintenant, c'est quelqu'un qui connaît le club.
Laisse-moi terminer. Grosso, il connaît le club pour aller. Il a entraîné quoi? Qu'est-ce qu'il a entraîné?
Non, Grosso, il connaît.
Il a rien entraîné. D'accord.
Il a joué à Lyon, il connaît comment le club fonctionne.
D'accord.
Ouais,
il connaît l'ancien Lyon. Et dans tous les cas, même s'il sait comment le club fonctionne, il ne peut pas faire fonctionner une équipe s'il n'a pas d'expérience. Déjà, pour commencer, et il se retrouve avec un groupe difficile, Grosso ne pourra rien faire. Je te le dis, on va refaire le débat dans un mois, si tu veux, ou dans deux mois, mois, quand il sera viré, parce qu'il sera déjà viré dans deux mois, trois mois. Mais je t'explique. En fait, dès que. Oui, t'as le droit de ne pas partager mon avis, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. Je t'explique juste que quand il y a un nouveau coach qui arrive, et même quand il est mauvais, il arrive sur ses débuts. Un, deux matchs, dans l'attitude déjà, tu vois, il y a une nouvelle impulsion, les joueurs se remettent déjà. Mais là, il arrive.
Dans l'attitude du nouveau coach marseillais, pour faire un pendant, t'as vu quoi?
Dans l'attitude des clubs.
Du nouveau coach marseillais.
Mais Gennaro Gattuso.
T'as vu quelque chose?
J'ai vu quelque chose. Contre Monaco, j'ai vu quelque chose. Ils ont perdu, certes, mais j'ai vu quelque chose.
C'est ce que t'as pas vu chez Grosso.
C'est ce que j'ai pas vu chez
Même
Grosso.
À l'entraînement.
Il n'y a pas eu cette révolte, il n'y a rien eu. Aussi. En fait, dès qu'il est arrivé, Grosso, il les a plombés. Il est arrivé, Cherki, t'es sur le banc, Lacazette, tu vas jouer, mais le prochain match, t'es pas sûr. Il arrive en conférence. Bon, le prochain match, je suis sûr que Tagliafico va jouer, Cherki aussi, c'est sûr, et Lopez, E3, c'est sûr. Le reste, il n'y a rien de sûr.
Mais
les autres, comment ils doivent se sentir? Non, mais comment ils doivent se sentir, les autres? Tu vois, ils doivent
comment,
le regarder.
Comment
faut arrêter deux secondes, c'est une grosse blague.
Comment doit Grosso, être le ressenti? Comment doit être le ressenti des joueurs, déjà? Même moi, par rapport aux compétences et tout, c'est que tu arrives dans un club, ton premier match. Tu prends Cherki, le petit prodige. Bon, après, il peut y avoir des longs débats sur Cherki. Tu le mets pas. Donc, tu dis, putain, tu peux penser, quand tu regardes comme ça, putain, le choix fort, le mec fait un choix fort et tout. Le match d'après, déjà, après avoir dit dans la semaine, c'est un joueur très important, qui fait partie du projet, du machin. Le match d'après, ce que je pense...
Excuse-moi, Stéphane. Excuse-moi, c'était juste pour apporter un peu d'eau à ton moulin. Faut préciser aussi, quand il a pas mis Cherki, ils ont fait zéro tir cadré. Tirs et zéro cadré. Non, mais faut le préciser.
Non, mais...
Zéro tir cadré.
Alors,
le match,
mec,
quand il met Cherki sur le banc.
Donc, ça veut dire,
c'est vraiment pour montrer.
Si tu observes un peu, si tu es un peu observateur du foot, et ça, notamment, c'est mon adjoint, mon spécialiste des écrans.
Ton adjoint, je suis pas sûr qu'il va accepter la place.
Alors je suis son adjoint.
J'accepte.
Bien
sûr que je l'accepte.
Mais les mecs, ils se disent forcément, mais c'est quand même bizarre, quoi. Il y a un premier truc, il fait un choix fort pour essayer de gagner. Match à l'extérieur à Brest. Match à l'extérieur à Reims. Un peu, pas la même façon
est-ce
de jouer.
Est-ce que c'est important aujourd'hui pour Lyon à l'extérieur ou à domicile?
Oui,
l'impression que c'est blambonné.
À domicile, ça va être pire parce que les supporters,
ils ont le même visage. On aurait pu penser, il le met pas à l'extérieur chez un match parce qu'il va renforcer son, tu sais, les trucs habituels. Là, c'est deux matchs de toute façon à l'extérieur, donc c'est une façon au moins d'aborder le match de la même façon. Et il fait autre chose. Donc déjà, tu te dis. Moi, rien qu'en tant qu'observateur, sans être à l'entraînement tous les jours et tout, je me dis, ouais, déjà, il y a un truc déjà que j'ai un peu de mal à comprendre, quoi. Le mec, il s'en passe pour son premier match, le choc psychologique et tout, ça veut dire que, genre, c'est guerrier et tout, l'autre, il n'est pas dedans. Et le match d'après, le mec, il, alors, peut-être parce que, je ne sais pas s'il n'y avait pas la casette à Reims et à Brest, je ne sais pas s'il n'y avait pas la casette. S'il y avait la casette à Brest.
À Brest, il y avait la casette.
Non, il était suspendu.
Non,
à Brest,
il jouait
parce que
Brest,
justement, il est sorti.
Dernier match, il a été suspendu.
Ah, Cherki remplace.
Dernier match à Reims, il a été suspendu.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas mis. Donc, peut-être qu'il ne le voit que comme un numéro 9 remplaçant de la casette. Non, mais ça n'a ni queue ni tête, le truc. Il y a un mec qui fait, celui-là je l'avais vu, qui fait une rentrée, mais dégueulasse, même si c'est peut-être un bon joueur, Baldé, qui fait une rentrée dégueulasse à Brest, mais vraiment, le mec qui fait à Brest, il fait une rentrée dégueulasse. Et ben le mec qui met.
Attention, c'est le joueur du Braiba.
Non, mais c'est grave.
Le mec qui met titulaire.
Il a fait une saison correcte.
Qui met titulaire.
Très bonne saison.
Ouais, mais à 3.
Oui, il a à 3, mais moi, maintenant, il faut regarder le match. Excuse-moi, Stéphane. Il faut regarder le match sur Mama Baldé. Il n'est pas servi. Il n'a pas une balle en profondeur. Il n'en a pas.
À Brest, quand il est servi, la balle, elle repart 3 mètres derrière. À Brest, je parle, moi. Il est servi et tout. C'était une catastrophe.
Il se blesse à la fin.
Mais c'est vrai que c'est pas. Moi, à 3, je l'ai vu beaucoup.
Il y a quel joueur de ballon aujourd'hui à Lyon?
Justement,
il y a qui
si tu penses que Cacré est surcoté, que Tolisso, il est cramé et que Koumbédi, je ne sais même pas s'il connaît un peu le foot, le latéral droit là, qui fait jouer. Pour moi, il n'y a que Tagliafico, c'est tout. Et encore, et c'est pas
la casette.
Moi, il y a un joueur.
Et la casette, oui.
Il y a un joueur que j'aime bien.
L'idée de ma question, c'est de dire qu'est-ce qui va donner le ballon à l'avant-centre.
Ah, mais personne.
C'est ça la question.
C'est ça, en fait. Que
personne.
La casette,
personne.
Une
personne.
Fois que la casette ou
Mama Baldé, il doit aller les chercher, les ballons. Alors, c'est normal que quand tu lui fais
qui donne le ballon à la casette ou à
Baldé. Celui qui pourrait, dans mon esprit à moi, celui qui pourrait, c'est Cherki. Dans une refonte d'équipe, une réorganisation du travail, peut-être qu'il doit jouer.
Il n'a pas fait jouer une seule fois. Cherki,
il a plus besoin de confiance.
Mon cher Philippe, avant de clore le dossier lyonnais, justement, aujourd'hui, quelles sont les mesures envisageables justement pour pouvoir restaurer un peu de stabilité dans ce club?
Changer d'état d'esprit, mais ça c'est facile à dire, ça va être compliqué.
Mais c'est pour ça qu'elle a dit que Grosso n'est pas la personne indiquée.
Grosso, ça sera un pion comme un autre, de toute façon. Le problème, bon, il suffit qu'il y ait un ou deux petits résultats, s'ils les ont, pour que ça puisse au moins revenir. Est-ce qu'ils les auront? Ça, c'est autre chose.
Elle a dit.
Oui.
Pour pouvoir avoir un peu plus de stabilité.
Il est
dépité,
là. Au
niveau de l'Olympique Lyonnais.
Est-ce que tu penses qu'il y a des mesures comme ça? On a déjà changé de coach.
Bah oui.
Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre, elle est très infime. Qu'est-ce qu'on
peut faire? Pour moi, qu'ils ont changé un coach, c'est pareil. C'est bien. Mais comme on dit, tu changes de coach pour faire venir un coach meilleur ou quoi. Mais tu régresses ou c'est à peu près la même chose. C'est le même profil. Moi, Laurent Blanc, il n'a jamais été un grand tacticien. En tout cas, de moi, je ne suis pas très fan.
À Bordeaux, il nous a prouvé beaucoup de choses quand même.
À Bordeaux.
Et je pense que même au PSG, c'est sous
moins,
Laurent Blanc qu'on a vu. Un des meilleurs PSG quand même en termes de jeu.
Non, moi je pense. Ouais, t'as vu Serge Aurier ce qu'il disait sur Laurent Blanc? Tu t'en rappelles? Zlatan Ibrahimovic, il était là. Zlatan Ibrahimovic, c'était vraiment le patron
à
fond.
Mais moi, je me fie à ce qu'on voyait tous sur le terrain.
Oui, mais après, il faut voir l'équipe aussi qu'on avait. C'était en Ligue 1, on arrivait en Champions League, il n'y avait pas grand chose en Champions League. Il n'y avait pas grand chose.
Donc, qu'est-ce qu'on peut changer à Lyon aujourd'hui?
Moi, ce qu'on peut changer à Lyon, déjà, de une, il faut faire un recrutement. Et grosso,
un recrutement?
Il faut faire des recrutements.
Il
faut faire des recrutements.
À quel poste?
Tous les postes.
Déjà, il devrait.
À
déjà,
tous les points,
déjà
même
je
le gardien.
Pas que je comprends pas déjà par exemple.
Tu remets en question Anthony Lopez aujourd'hui?
Non, mais bien c'est sûr. Bon, ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Ils jouent rien.
Tous les joueurs, je te dis, moi, quand on en parlait, après ça peut être variable selon les autres. À part Lacazette et Tagliafico, il n'y a pas un joueur de l'équipe qui a créé, peut-être dans le top 5, qui vaut le top 5 de la Ligue 1.
Chacun, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Mais pourquoi
là
on peut faire?
Si tu avais une idée comme ça à donner à Texor, qu'est-ce que tu aurais suggéré quoi?
Mais à texto, moi, je pense que c'est mieux de laisser Grosso. Parce que quand tu regardes de mai 2019 jusqu'à aujourd'hui, Lyon, ils ont changé 4 entraîneurs. Et ça a donné quoi? Entre guillemets, c'est ça. Oui, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Ça a donné quoi? Rien.
T'es pour la stabilité, quoi qu'il arrive.
Voilà, moi, j'aimerais vraiment qu'on lui fasse confiance. Parce que les autres, par moment, avec Silvinho, à un moment donné, ça avait bien débuté. À un moment donné, après les résultats, ça n'allait plus. Donc, ils l'ont chassé. Après, Silvinho, on prend Rudy Garcia, qui est un entraîneur expérimenté, qu'il a prouvé à Marseille, un peu partout, à la Roma, tout ça, même à Lille, il vient, et avec Lyon encore, c'est les mêmes soucis.
Rapidement, ouais, Ibrahima.
Il y avait trop de monde à l'époque.
Baguette magique.
Il y avait trop de monde.
Moi, je pense. T'as une baguette magique, tu dis quoi à Textor?
De vendre le club déjà, si possible.
Ah, de revendre le club?
Bah oui, non, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, chaque week-end, il y a un nouveau joueur à Lyon, sincèrement. Je sais pas ce qui se passe avec c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment.
Il
n'y
a pas tous les matchs par contre, parce que tu vois, il est
chaque week-end, je découvre. O'Brien, ouais. Je le connaissais pas. Et l'effectif est très très mauvais, sincèrement. Enfin,
il est en 4-5. Il est mauvais et pléthorique. Hein.
Il est mauvais, et si on voit ce qui s'est passé par rapport à il y a 4-5 ans, on voit que vraiment ça a réellement chuté. Quoi. Enfin, des joueurs, Mamadé,
une dernière petite frappe par
rapport à Clinton Mata, c'est catastrophique.
Il y a une chose importante. Jean-Michel Aulas a dit. Oui. Alors c'est bien de le dire maintenant, mais ça, en tout cas c'était vrai il y a à peu près quelques mois dans une interview à un canard économique. Dans le cadre de cette interview, il disait John Textor, moi je voulais pas lui vendre le club. Donc déjà faut savoir même.
Stéphane n'a pas revenu là-dessus parce qu'il l'a déjà vendu. Là aujourd'hui on est dans le factuel.
Non mais justement c'est du factuel parce que Philippe parle d'argent. C'est-à-dire que qui est-ce qui a choisi John Textor comme propriétaire nouveau patron de Lyon? C'est des banques. C'est une banque. Ouais. Une banque qui a été mandatée pour trouver.
Ouais, mais Stéphane, c'est toujours tout. Pareil, l'opinion,
c'est pareil à Chelsea.
Le grand public.
Moi, je pense que c'est pas la même hypothèse parce qu'on a vu Roman Abramovich qui connaissait rien du football. Qui connaissait rien du football, mais qui a fait de Chelsea aujourd'hui un des grands d'Europe.
On va revenir dans quelques instants, justement, pour parler des droits télé.
Ça dépend de qui l'entoure.
Chekenza, s'il te plaît, on va revenir dans quelques instants pour parler des droits télé de la Ligue 1. Canal Plus se retire de l'appel d'offres. Est-ce l'échec de Vincent Labrune? On débat dans quelques instants. Également, la Ligue des Champions avec une journée à vous couper le souffle. Il y aura Lens, l'Arsenal, Naples, le Real Madrid, Newcastle et j'en passe. On va juste transiter par un peu de pub. On souffle un peu et puis on revient.
Je vais faire.
Bougez pas.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Quand je l'ai quitté, il a commencé à m'envoyer des insultes et des menaces sur mon Facebook. Pour se venger encore plus, il a publié des photos de moi trafiquées. Maintenant, plus personne ne me regarde de la même manière. Je me sens humiliée, salie, prise au piège. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours seule. Sali. Je me supporte même plus. Faut que j'en finisse.
Si Kenza en parlait à quelqu'un, elle pourrait éviter le pire. Stop au silence. Avec Sourire de Reda, association marocaine pour aider les jeunes en souffrance et prévenir le suicide. Exprime-toi sur la fanpage Facebook Sourire de Reda.
Au bout du foot, troisième partie, les droits télé de la Ligue 1. Canal Plus se retire de l'appel d'offres. Est-ce l'échec de Vincent Labrune? On pose la question ce soir. Ligue des Champions, une journée à couper le souffle. Avec des équipes comme Lens, Arsenal, Naples, le Real Madrid, Newcastle et Paris. Laquelle des affiches vous fait le plus rêver? Ensuite, dans la chronique, quel choix pour quel résultat? Nos chroniqueurs partagent leurs prédictions concernant les clubs français engagés dans les compétitions européennes. Avec toujours Stéphane Desenclos du quotidien du sport, notre ami Philippe Carnu de Mon Paris Sport sur Mon Paris FM, Chekenza, Ibrahima, étudiant, notre rédacteur en chef Aboubakar ainsi que notre chroniqueur Elag. Tous et toutes sont là avec une réalisation de Jason Lindor. Les amis, les droits télé de la Ligue 1, Canal+, se retire de l'appel d'offres. En quelques lignes, mon cher Abou. De quoi s'agit-il?
Maxime Saada, président de Canal+, a annoncé que la chaîne cryptée n'allait pas candidater au prochain appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, tout en accusant la Ligue de football professionnel de favoriser Amazon. Donc Canal+ ne diffusera plus les matchs de Ligue 1 a priori la saison prochaine. Et il faut savoir que Canal+ est le diffuseur historique de la Ligue 1 et que ça fait depuis les années 80 que Canal+ diffuse. Les années 80 du coup que Canal+ diffuse la Ligue 1 et pour la première fois depuis les années 80 pardon, il n'y aura pas de diffusion des matchs de la Ligue 1.
Waouh. Philippe, ça t'évoque quoi?
Ouf, bah ça m'évoque que j'étais beaucoup plus jeune déjà quand on a vu la révolution Canal+ arriver pour le foot. Ouais, bah on en parlait l'autre jour, je trouve quand même que c'est un petit peu dommage hein, c'est le vivier historique de la Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que la Brune, il avait là aussi d'autres sûrement d'autres objectifs, hein, mais c'est bien dommage. Bon, parce que Canal, bah oui, c'est toute notre jeunesse avec Stéphane. Hein,
ouais, Stéphane, justement, à part nous dire que comment dire ça, la Ligue favorise Amazon. Bah, est-ce que c'est un argument qui tient la route, ça?
Moi, je pense que
c'est suffisant.
Moi, mon avis, mais là, franchement, je suis pas très hyper informé en tout cas là-dessus. Mais mon avis, c'est que Canal+, je pense qu'effectivement,
ils veulent plus mettre autant, quoi, c'est tout.
Et ouais, le diffuseur historique, hein, premier match Monaco-Nantes en 1984, à Louis II. Et je pense qu'ils ont un peu, pour résumer, je dirais qu'ils ont un peu la grosse tête, quoi, Canal+. Genre, le foot, c'est nous. Et Coco, là, tu vas aller voir un peu du côté d'Amazon. Bon, j'extrapole un peu, je suis un peu extrémiste quand je dis ça. Mais vous avez besoin de nous. Et puis, peut-être qu'il y a un bras de fer en ce moment. Moi, je jurerais pas aujourd'hui qu'il y aura plus de foot sur Canal à partir de là.
Il y a le championnat saoudien déjà.
Ligue des champions anglais.
Et ils vont récupérer la Ligue des champions, la Ligue européenne.
Oui, oui, et puis,
ils misent peut-être moins sur la Ligue 1. Ouais, maintenant, ils sont aussi en partenaire de... C'est comment ça elle s'appelle, il s'appelle le nouveau média, la DAZN. Ils ont un partenariat pour, je pense, les héberger sur leur bouquet. Donc ils vont y aller peut-être là-dessus. Ils ont des accords. Je sais pas. Moi, je le vois un peu comme ça. Genre, on est les patrons du, patrons du tronc. On voit que Prime Video, Amazon Prime notamment, je pense qu'ils font du très bon boulot avec des bons commentateurs, des bons, et c'est très intéressant. C'est plus forcément les leaders, et puis il faudra passer à autre chose, et puis c'est tout. Hein.
Ibrahima, Mbappé certainement sur le départ, Neymar n'est plus là, Messi n'est plus là. Est-ce que tu crois que ça peut aussi motiver Canal+ de ne pas rempiler?
Ah bah bien évidemment, le championnat est de moins en moins attractif aujourd'hui avec beaucoup moins de superstars, notamment le PSG qui s'est séparé de Neymar et Messi. Quoi qu'on en dise, ça reste Neymar et Messi malgré tout. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle équipe et quel joueur peuvent pouvoir rendre le championnat attractif. Ça va être très compliqué et je me pose la question surtout pour la renégociation du prix de la Ligue 1. Je pense que là, ça risque d'être vraiment compliqué. S'il n'y a aucune star qui arrive en Ligue 1 d'ici là, ça risque d'être vraiment, vraiment très compliqué.
Moi, en tout cas, j'en vois pas. Hein, j'en vois pas.
Un milliard d'euros, la Brune, à mon avis, c'est le bon.
Déjà que même au niveau mondial, les stars aujourd'hui, il n'y en a pas non plus. Hein, Messi, parti, Ronaldo.
C'est vrai, mais la première ligue.
Il y a Haaland et Mbappé, hein, quand tu regardes bien. Bon, Alvarez, j'attends de voir encore. Donc, c'est très, très, très juste déjà. Hein. Mon cher Elad, est-ce que le foot, la Ligue 1, qui n'est pas sur Canal, ça va te manquer? Toi qui regarde beaucoup de matchs les week-ends.
Ah, moi franchement, que ça soit, moi j'ai tous les abonnements.
Mais
je les rentabilise à fond. Hein, je les rentabilise
non, j'ai
à
pas
fond,
RMC. Comme moi.
Si, voilà, moi je les rentabilise à fond. Mais non franchement, je pense que voilà après Ibrahim il a déjà tout dit. Hein, Messi, Neymar, ça reste quand même des superstars. Regardez dans tout le monde entier, suivi sur les réseaux sociaux, suivi à travers beaucoup de choses. Du coup, ils partent. Ça fait descendre et maintenant on voit hein, maintenant la plupart du temps c'est des surenchères qui proposent le mieux, qui proposent le plus, et je pense que là Canal+ ils en ont juste ras-le-bol en sachant que voilà là maintenant tu payes plus mais il y a moins de vision, moins de visibilité, etc., en sachant que l'année prochaine Kylian Mbappé va partir, bien évidemment fallait que je le place pour Stéphane, mais c'est une réalité, du coup je pense qu'ils sentent le coup et du coup voilà, ils veulent
si c'est pas l'année prochaine, c'est celle d'après.
Non, là c'est sûr.
L'année prochaine, alors d'après notre ami, mais en tout cas, c'est les droits ils sont sur 4 ans ou 5 ans, je crois même. Ils les ont mis sur 5 ans.
5, 2024.
Donc, de toute façon, même si c'est. c'est pas l'année prochaine, ça sera là. Donc c'est vrai qu'ils veulent pas se traîner ça, et ils ont peut-être des doutes là-dessus, mais ça n'empêche pas que ils se servent. Quoi, moi, c'est hyper quand même compliqué, quoi, parce que ça veut dire qu'ils se servent aussi quand même du foot. C'est un peu compliqué. C'est vrai que ça arrange pas. Et c'est vrai qu'il y a un bras de fer en ce moment entre la Brune et Canal. On saura juste au mois de juin, au 17 octobre, je parle en octobre, là, ça va se faire, quand on saura à qui il a vendu et pour combien ils ont vendu, combien ils ont eu de millions. Et c'est là qu'on pourra dire si c'est un perdant ou un gagnant, la Brune. Hein.
Ben, la Brune, il en veut pour 1 milliard d'euros, lui. Hein. Donc, de toute façon, je pense pas qu'il...
1 milliard d'euros ?
Oui.
Non, mais il les aura pas.
Et il les aura pas.
Non, enfin, veut parce que là, le montant, c'est 800 millions d'euros.
Problème, c'est non, c'est pas 1 milliard, c'est 800. C'est vraiment
800 millions d'euros.
Parce que les journalistes,
mais ce qu'il a dit, c'est vrai. La Brune, il veut pour 1 milliard. Il veut vendre pour 1 milliard.
Mais il
aura
beaucoup moins.
Mais personne n'a proposé ce montant-là.
Mais le problème, personne ne peut le proposer déjà. Et en plus, le championnat français ne le vaut pas.
Il vaut.
Ouais, en plus, c'est un championnat attractif.
C'est pour ça que Canal veut plus.
Ils sont mis en vente pour 800 et quelques millions d'euros.
800 millions d'euros.
Il aimerait peut-être un jour, il rêve d'un milliard. Alors, c'est un truc qui, dans le langage courant, voilà, des gens, des journalistes, des réseaux sociaux et tout, c'est plus facile de dire il veut 1 milliard d'euros.
Donc, Canal se retire
aujourd'hui,
c'est
je
normal.
Crois que s'il y a la totalité des lots qui partent et tout, comme ils veulent, comme ils l'ont, ils les ont saucissonné, ça va effectivement vendre 850 millions.
Les,
je pense qu'il les atteindra, mais... il les atteindra certainement pas, mais je pense pas que ça soit aussi Canal dit non, qui participeront pas. Bah, moi je dis qu'ils participent pas, et puis voilà.
Oui, ils veulent pas mettre une certaine somme.
Merci les amis, on va foncer tout droit dans la Ligue des Champions avec le concours de notre ami Jason Lindor. On va parler de la journée qui nous attend demain mardi et mercredi prochain. Alors les amis, la Ligue des Champions, c'est demain mardi déjà et mercredi. Alors tous les grands clubs qui se respectent, sauf Lyon, sont engagés dans cette belle Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a une affiche particulièrement qui vous excite déjà là, Elhadj?
Naples-Real Madrid.
Naples-Real Madrid.
Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas mal.
Pas mal.
Ouais. Belle affiche, ouais.
Et toi aussi, Philippe?
Oui, Naples-Real et puis le match du PSG aussi, hein.
Aussi.
Stéphane n'est même pas d'accord. Il a dit non. Stéphane, toi, c'est
en dehors du match du PSG, Leipzig.
Mais attends, change un peu.
Leipzig Manchester City.
Ah ouais.
Leipzig City.
Ah ouais.
City.
Parce que tu l'as dit toi-même.
City est parti pour gagner quand même.
Bah je pense, mais tu l'as dit toi-même. City vient de perdre 2 matchs. Leipzig est en super forme. Il y a des joueurs français. Il y a des très bons joueurs qu'on connaît bien en France. D'autres qui sont pas français, comme David Simon par exemple. C'est Belge ou Panda par exemple. C'est une belle équipe qui vient de faire 2-2 avec le Bayern Munich sur sa pelouse. Donc moi ce match il m'attire. Et bien sûr aussi quand même Lens Arsenal,
oui,
qui m'intéresse, parce que Arsenal c'est quand même une très belle équipe aussi, qui joue vraiment très bien.
Moi j'ai peur pour Lens sur ce match, j'ai peur. Ibrahima, quelle est l'affiche qui t'attire?
L'affiche qui m'attire particulièrement cette deuxième journée de Ligue des Champions, c'est Lens Arsenal quand même.
Lens Arsenal aussi.
Oui, j'aimerais bien savoir ce que Lens va proposer face à Arsenal.
Oui,
deux équipes elles jouent plutôt bien. En plus c'est à Bollard. Ça peut être un beau match.
Ah, il peut y
une humiliation. En tout cas, on aura droit du spectacle.
Ils vont se faire botter le popotin.
Ouais, je pense aussi qu'on aura des buts. Hein. Abou ?
Lens Arsenal. J'ai hâte de voir la fessée rouge pour Lens. Donc, je serai devant ma télé.
Ah, comme le logo de mon Paris FM. Mon cher Chexa.
PSG Newcastle.
Ouais.
J'aimerais vraiment voir l'attitude du PSG. Genre, comment ils vont jouer face à Newcastle. Une équipe à Newcastle, une équipe vraiment avec par moment qui joue un bloc bas, par moment un bloc haut. Parce que l'entraîneur de Newcastle, c'est un tacticien. J'aimerais vraiment voir Luis Enrique face à Newcastle. J'aimerais voir ce qu'il va proposer dans l'enjeu, tout ça.
Ouais, je pense que ça va être une vraie bataille en milieu de terrain, ce match. Hein.
Moi, franchement, au milieu de terrain, moi, franchement, j'ai peur. Milieu de terrain, moi, j'ai peur. Moi, comme je l'ai dit, hein, depuis le début, dès que j'ai vu le classement, dès que j'ai vu les groupes, je l'ai dit directement, Milan ne me font pas peur, Dortmund ne me font pas peur. La seule équipe qui me font peur dans la poule, c'est Newcastle. Je l'ai dit dès le début. La seule équipe.
Mais cela dit, je pensais un peu la même chose que toi quand je les ai vus en Premier League. Sauf que quand je les ai vus la dernière fois face
ils
au
reviennent
Milan,
mais ils reviennent.
Face au Milan, je les ai trouvés mais d'une mais c'était soporifique, c'était ennuyeux ce match.
Ils étaient amorphes encore et en plus, faut pas oublier que ça fait longtemps qu'ils
n'ont pas
joué.
Même le Milan n'était pas non plus à la hauteur.
Après,
du
c'était à l'extérieur, c'était à San Siro.
Oui, même les deux équipes même n'étaient pas. Je me suis dit, il y a un boulevard pour le PSG.
Léao a raté pas mal d'occasions ce match-là, c'était assez.
Aussi, et je pense que Newcastle, ils se disent vraiment, s'ils prennent match par match, et voilà, ils font un match nul et ils gagnent à domicile contre l'équipe. Je pense que tu vois, ils se disent, on prend le dessus à chaque fois si on réussit à faire ça contre.
Tu crois qu'ils vont attaquer là? C'est une vraie question.
À domicile contre le PSG.
Bien sûr qu'ils vont attaquer.
Moi, j'ai vu là contre City le visage qu'ils ont montré contre City et juste avant le 8-0 qu'ils ont claqué contre Sheffield United. Honnêtement, je pense que ça va envoyer.
Ils vont attaquer. Ouais.
Voilà, je pense que là, ils ont pas trop. Ils ont fait un mauvais match.
Donc c'est bon, ça me conforte dans mon esprit qu'on peut gagner ou faire un résultat. Que Paris peut gagner ou faire un résultat.
Ah non, je pense pas qu'ils vont mettre le bus devant.
Ouais,
ah non, je pense pas qu'ils vont mettre le bus devant. Au contraire, ils jouent à domicile. Ça serait bête de.
Je crois qu'ils ont eu quelques blessés. Ils ont eu quelques blessés importants.
Joe Linton, il me semble.
Et Botman, notamment derrière, par exemple.
Ça se remplace rapidement.
Et je crois que Barnes, il est pas. Il est, non, Barnes.
Isaac, il est sorti sur blessure, mais je crois que c'est pas.
Non, Isaac, je crois que c'est
ouais,
bon.
Ouais, avec le match qu'il a sorti là. Avec,
ouais, mais c'est Isaac quand même. Non, moi,
Manchester City, ça va. Alexander Isaac, ça va.
L'intensité me fait peur. Et effectivement, comme il a dit, l'intensité, notamment au milieu, j'attends de voir. Je doute pas pour Ugarte. Je pense que ça va être un vrai test pour.
Guimarães en ce moment il est en pétard.
Ouais. Ça va être un vrai test pour Zaïre Emery là qui est titulaire, qui est mis et tout. On va voir comment.
Manchester United Galatasaray là, ça vous.
C'est un match de Ligue Europa.
Il a intéressé par Zaha et Pepe. Sinon il n'y a rien à regarder là-bas.
Si Naples, Real me hype pas, c'est surtout à cause de Naples, pas à cause du Real. Parce qu'effectivement, le Real est quand même assez intéressant. Mais cette saison, mais Naples, je sais pas, plus l'équipe de Rudy Garcia que. Je connais le bonhomme, je l'apprécie et tout, mais bon, même si donc l'année dernière je jouais très bien Naples, mais cette année c'est plus compliqué, donc je sens plus le 0-0, le match comme ça. Donc
Naples, moi je pense pas. 2-0 pour le Real.
Et au niveau maintenant de l'Europa League, les amis.
Si quelqu'un gagne, ouais, je pense.
On redescend au niveau de l'Europa League rapidement.
Moi, c'est clairement Marseille-Brighton.
Ouais, Brighton.
Ah bah oui, mais ah oui, ça va être une. Ça, alors là, par contre, on peut l'enregistrer. Je prends les paris là.
Ça va être quoi, vas-y.
Ah non, que Brighton va gagner au Vélodrome.
Ils ont perdu 6.
Pour l'instant, je me suis planté. Je les voyais gagner à l'Ajax et je les voyais faire un nul à Monaco.
Brighton, ils ont été défaits ce week-end.
Brighton gagné au Vélodrome.
6-1, non, c'est ça.
Ouais, ils ont pris une raclée là.
Mais t'as vu ce que le coach il a dit. Le coach aussi, c'est un grand tacticien.
Deserbi.
Ouais, mais moi
j'aime beaucoup ce qu'il propose. Hein. L'intensité.
Ben moi, Ansu Fati
qui a mis son premier but d'ailleurs.
Ouais, exact.
Du coup, là je pense que.
Mais moi,
il a dit au Vélodrome, on aura un autre visage de Brighton. Généralement, quand il dit ça,
il y a 5 classes d'écart entre l'Olympique de Marseille et Brighton.
S'il suffit que de ça pour qu'une équipe change.
Ah non, Rennes.
Je t'ai pas dit ça.
Rennes-Villarreal.
Et Rennes, Toulouse.
Villarreal-Rennes. Sale match. Je vais pas le regarder.
De toute façon, c'est en même temps, je crois.
Toulouse.
Ah non, mais c'est à Toulouse,
j'ai noté.
Moi,
je regarde qu'un match.
Toulouse.
Je peux pas voir 5 matchs.
Toulouse est capable. Ils sont censés gagner normalement sur le papier, ils sont au-dessus, mais bon, après, ça reste une équipe.
Qui Toulouse ?
LASK. Ça reste une équipe française en Europa League. Donc, tout est possible.
Tout est ouvert, quoi. N'est-ce pas ?
Mais moi, en tout cas,
c'est Lille.
Alors, dernière ponctuation, les amis, on va faire un focus sur Lens Arsenal et sur Paris Saint-Germain, Newcastle PSG plus précisément. Alors, vos impressions, on va commencer par le PSG. Vos pronostics, vos prédictions.
Paris va gagner 2-1.
Et toi, Stéphane ?
J'hésite entre 1 partout ou 2-1 pour Paris. En tout cas, je pense que Paris ne perdra pas. Non, si j'avais c'était dans les paris, Paris ne perdra pas.
C'est Newcastle PSG. Hein.
Non, je sais. Plus, ça sera d'ailleurs peut-être plus difficile PSG-Newcastle que Newcastle-PSG.
Sakenza ?
Moi, je vais 2-1 pour Paris.
Oui.
Dis donc, que des supporters parisiens ici. Brahima.
Non, je
vois un match nul, moi, entre 2 partout entre Paris et Newcastle. Je vois pas Paris.
2 partout.
C'est exactement ce que j'allais dire. Pourquoi pas ?
Moi, c'est pas Paris gagnant à Saint-James Park.
Ouais, moi, je les vois, mais effectivement, si j'ai à parier, peut-être.
Newcastle, offensivement, c'est assez costaud quand même, et c'est plutôt beau à voir jouer, donc je les vois pas.
Ouais, peut-être qu'il y a l'ambiance aussi qui peut jouer en défaveur de Paris, parce que Saint-James Park, c'est un stade où c'est un peu chaud là-bas.
T'as déjà été là-bas.
Non, j'ai jamais été
ou
j'ai
déjà joué
mais vraiment je, je constate à la télé et tout ça, c'est un stade qui est chaud.
Je t'ai taquille, je t'ai taquille.
C'est un stade vraiment qui est chaud, donc...
3-1 Newcastle.
Bah oui, il voit.
Lui, carrément.
Rappelez-vous que Abou, il a dit qu'il voyait pas le PSG qualifié dans la poule.
3-1 Newcastle.
Donc faut dire qu'il perd quelque part.
Hein. Ah, mais en même temps, je veux dire.
Alors, si j'avais à parier de l'argent, je parierais le nul.
Est-ce que le score, le score de ce week-end justement n'a pas influencé ton score là?
Non. Non, moi c'est surtout le début de saison Newcastle, il me faisait peur. Mais là, la tendance inverse qu'on voit depuis 2-3 matchs, comme il disait, là, c'est une équipe qui se reprend très bien. Ça me fait dire que pourquoi pas 3-1. Après, c'est des pronos, c'est comme si c'est du fun. Hein, 3-1, c'est ouais. J'irais pas mettre de l'argent dessus non plus. Mais
pourquoi pas. Lance Arsenal, les amis.
Ouais, Il a pas dit son...
Bah, si, il a dit qu'il pensait comme Ibrahima de
lui. Il m'a quand même pas laissé.
T'as dit, bon, vas-y, allez,
oui,
je te laisse parler.
Non, c'est vrai, bah, on peut enchaîner. Deux moi, je vois 2-2. Voilà, 2-2 partout.
Ouais. Ouais, il va y avoir des buts.
Oui,
j'attends toujours, on verra peut-être. J'attends de voir quand même le match pour voir comment Newcastle va attaquer, va se ruer à l'attaque contre le PSG.
Je pense que Mbappé fait peur quand
même. Je suis pas certain.
Quand t'as Mbappé en face
c'est
de
pas
toi,
la première équipe qu'on verra.
Tu joues pas
il est pas à 100%, je pense aussi.
Ouais, il est pas du tout à 100%. Pas du tout.
À présent, pour boucler la boucle, les amis, Lens Arsenal, ce sera sur Canal Plus Foot d'ailleurs.
Oui, après,
pour celles et ceux qui sont concernés, intéressés surtout.
Un partout.
Oh la vache.
Ouais.
Alors moi, on va rigoler. Moi, je suis dans le jeu.
Arsenal qui
je suis dans 3 buts d'écart pour Arsenal. Genre 3-1, peut-être 3-1.
Non, c'est pas 3 buts d'écart.
4-1, 4-1 ou 3-0.
Tu te souviens que moi, quand je regarde Arsenal à garder son niveau, je regarde l'équipe de Lens qui retrouve un peu des couleurs, c'est vrai. Mais je mets Lens au même niveau que du PSV Eindhoven.
Je sais que le PSV Eindhoven
a pris 4, c'est ça hein,
ouais, à domicile.
De mémoire, 4 à 1. Et je pense qu'on aura à peu près le même score.
Bon, bah, tu peux.
Ouais, moi, je dis 3 buts de 4 à 1. Allez. Je dis 4 à 1 pour Arsenal. Ouais.
Chacun ça
pour moi, déjà, un match nul, ça serait un exploit, mais je ne vois pas vraiment Lens.
On disait ça vraiment... aussi face à Séville, hein, cela dit.
Ouais, mais je ne vois pas vraiment Lens aller vraiment... aller battre cette équipe d'Arsenal. Pour moi, je pense 2-0, ça serait un score.
Un doublé d'Odegaard, quoi, c'est ça. Et toi, Ibrahima?
Je vois 2-1 pour Arsenal, même si c'est vrai que Lens m'a fait bonne impression contre Séville. Ils ont failli remporter le match, même dans les derniers instants. Ils auraient dû remporter le match, mais l'effectif est trop limité pour ça. Donc, je les vois pas aller loin.
Mm-hmm. Parce que Séville, ils ont bien joué quand même.
Ouais.
C'est bizarre.
Ah, j'aurais pu.
Attends. Ça, c'est sketch. Là. Ça, non, c'est quoi, pas... là.
Doublé de Gabriel Rechus. Doublé de Bukayo Saka. Un but de Martin. Un but de.
Il n'est pas certain de jouer.
Un but de Odegaard. Et un but de William Saliba de la tête. Et après, il fera un cœur comme ça.
Un vert aussi.
Oh là. Et là,
ouais, moi, franchement, moi, je vois 3-1. 3-1.
Bon.
3-1 pour Arsenal.
Pour Arsenal aussi.
Bah oui.
3-1 pour Arsenal.
Il n'y a que toi seul qui est optimiste pour les Lensois en définitive. En tout cas, merci les amis.
Et je vois Marseille battre Brighton 3-0 et on va se revoir. Stéphane Desanclos la semaine prochaine. On va se revoir la semaine prochaine, Stéphane.
Et moi,
je redonne un prono derrière aussi. Moi, je vois 3-1 pour Brighton. Moi, je vois 3-0 pour Marseille. 3-1 et voilà.
C'est ce que j'avais dit.
Bon, moi, si, Aubameyang est bien luné, hein, parce que des fois, il n'arrive pas trop.
3-1 pour Brighton. Moi, j'avais juste dit. C'est vrai qu'on n'a pas dit les scores, mais que Brighton, je les vois gagner en
3-1 pour
Brighton.
On aura 3-0 Marseille la semaine prochaine, messieurs.
Moi, je me projette dans mon lit là.
Et toi, Malik, tu donnes pas les pronos. Toi, Brighton Marseille.
Mouille-toi.
Brighton Marseille.
En off, je suis censé être neutre ici.
Non,
mais
je suis censé.
Merci,
t'as bien fait de
nous avoir suivi. En tout cas, Jason Lindor, réalisé juste... au bout du foot, mon cher Abou.
Avant que tu coupes, message quand même du rédacteur en chef et de l'ensemble de l'équipe de Mon Paris FM. Grosse pensée au joueur de Nice, CKCK, qui a failli se. BKBK, qui a failli. Qui a fait une tentative de suicide. Grosse pensée à lui, à sa famille, à ses proches et à tous les joueurs de foot qui sont victimes de problèmes psychologiques. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que les joueurs de foot ont fait un silence autour de ça parce qu'on estime qu'ils sont assez riches et qu'ils ne vont pas avoir de problèmes psychologiques alors que c'est des êtres humains comme les autres. Donc, grosse pensée à lui et grosse merde à tous les journalistes et toute la presse qui a relayé des fausses informations comme. comme quoi c'était à cause de rupture amoureuse, etc. Ouais. Démenti par sa famille, donc grosse force à lui.
Mais on quand bien que... même ce serait ça, et alors.
Ouais, il n'y a pas de honte, quoi. Et, mais grosse force à lui, on espère qu'il reviendra vite sur les terrains de football. Et on pense très, très, très fort à lui.
Merci pour ce clin d'œil.
Et un petit... oui, Jordan, la... t'es mort. On a tous vu la victoire de Cédric Doumbé, quand même. Fallait faire une petite. Voilà, quand même, voilà.
Ouais.
Et
pour une victoire, c'en était une. Merci à vous tous, les amis. Stéphane, Philippe, Chakenza, Ibrahima, Abou et Eladj. Jason Lindor réalisé au bout du foot, troisième numéro. On se retrouve lundi prochain dès 20h30 avec des sujets tout aussi palpitants. Salut.
KFA.